Je vais vous dire, les gars, ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord, parler avec les potes et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple, mais ça l'est pas. Et je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat? Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés, au paradis bien sûr. Et Saint-Pierre sera un bon patron au paradis. Vous savez bien que vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever. Tu peux être viré, mais te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discutez, donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. Patron futé comme un bison trouvera toujours le compte service qu'il enverra dans votre meeting pour moucharder et provoquer. Faudra tout de suite dire aux débiles que le jaune lui va pas au teint. Arrête de faire la mouche, t'auras pas d'histoire, et le mec aveugle retrouvera la vue. Maintenant votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. Le patron qui est sourd quand un seul jeune entend très bien le syndicat. Il est beau joueur, hein? Et il est tout seul. Allez les gars, on va le trouver. Mettons que votre boulot soit l'enfer avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, feignant pas de rallonge, enfoiré. Mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salaud, affameur, négrier, il bat sa femme, on peut le parier. Les gars le plus dur, il reste à faire, tout sera bon pour vous foutre en l'air. La police, la garde nationale, c'est un crime, une carte syndicale. Vos meetings seront perturbés, on matraquera tous ceux qui bougent. Sale bande de rouges, anti-américains, espions japonais, saboteurs de la défense nationale. Mais chez Ford, ce qu'ils ont compris, et chez Renault, ce qu'ils ont compris, et chez Lip, ce qu'ils ont compris, et chez Rodia Seta aussi, aux joints français, ce qu'ils ont compris, un peu partout, ce qu'on a compris. Si on se laisse pas faire par les fachos, si on se laisse pas faire par les provocateurs, si on se laisse pas faire par les milices, si on se laisse pas faire par les jaunes, par les flics, par le gouvernement, si on se laisse pas baiser par les patrons, eh bien les gars, on gagnera. Enfin, ce que je vous en dis, prenez-le comme vous voulez, mais faites-le.
Radio Libertaire 89.4, les chroniques syndicales, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Voilà, donc on reçoit aujourd'hui Hugo Paletta, ça va, c'est bien prononcé ?
Tout à fait.
Voilà, autour d'un livre tout à fait intéressant, avec un titre qui malheureusement peut faire peur, c'est « Comment la France ?» Non, « Comment le fascisme gagne la France ?» ou « Comment la France est gagnée par le fascisme ?» d'ailleurs. On aurait pu renverser les choses avec un sous-titre « De Macron à Le Pen » et peut-être antérieurement... Grâce à d'autres. Peut-être nous dire un petit mot sur qui tu es, et puis on rentrera dans d'autres éléments.
Je suis sociologue et maître de conférences à l'Université de Lille. Je suis par ailleurs aussi militant depuis plus longtemps que je ne suis sociologue, sans doute. La sociologie, parfois, est une manière de continuer à faire de politique radicale par d'autres moyens. En tout cas, la sociologie telle que je la conçois, en tout cas, qui cherche à mettre en évidence les rapports de domination, d'exploitation, etc.
Mais on sait depuis longtemps que la sociologie est un sport de combat.
Ça, voilà. Pierre Bourdieu avait des bons côtés. En tout cas, celui-là, et le fait de remettre les classes et les luttes de classe régulièrement, et les questions de domination au centre, c'est un héritage intéressant de Pierre Bourdieu.
Voilà, donc tu travailles donc à Lille, et donc tu as beaucoup travaillé, j'imagine, pour rédiger ce livre-là, et tu commences ton propos en disant, attention, on nous parle de populisme, et en fait, le populisme tel qu'il est défini aujourd'hui, au moins, c'est d'une certaine manière un cache-sexe du fascisme, quoi.
Oui, et puis c'est un concept un peu anesthésiant qui a permis d'abord, on pourrait dire, il a été poussé par certains pseudo-experts ou experts véritables parfois, hein, mais de l'extrême droite contemporaine. Je pense par exemple quelqu'un comme Pierre-André Taguieff qui a fait un sacré déplacement des années 80 jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il était plutôt de gauche, hostile et très hostile au FN à l'époque. Puis aujourd'hui, il fricote vraiment avec l'extrême droite. Bon, en tout cas, à l'époque, dans les années 80-90, il a commencé à pousser avec d'autres, notamment des historiens de l'extrême droite, l'idée que le FN ne relevait en rien du fascisme, mais de ce qu'il avait appelé le populisme ou le national-populisme, à une époque où c'était quand même assez évident pour tout le monde qu'il y avait quelque chose à voir avec le fascisme dans le Front National. Ne serait-ce que parce que du fait des origines du Front National, hein, je le rappelle très très vite, mais qui fonde le Front National en 72, évidemment il y a Jean-Marie Le Pen qui lui vient du poujadisme et des luttes pour la colonisation française de l'Algérie. Par ailleurs, c'est aussi quelqu'un qui dans sa période de vache maigre a édité des chants nazis dans sa société d'édition musicale, la SERP. Mais on retrouve aussi des Waffen-SS, notamment celui qui a déposé les statuts du FN en préfecture, Bousquet, d'anciens pétainistes évidemment, l'ancien bras droit de Jacques Doriot, Victor Barthélémy, qui est le numéro 2 du parti du FN au début, dans les années 70.
Doriot, responsable du PPF.
Voilà, du Parti populaire français, un parti fasciste français dans les années 30-40. Évidemment, des membres et des sympathisants de l'OAS, qui était l'organisation terroriste qui a commis le plus d'attentats sur le sol français, et bien sûr algérien, mais qui était à l'époque une possession française coloniale. Voilà, donc ce sont tous ces gens, ces fascistes français de diverses chapelles, qui créent le Front National. Donc, dans les années 80-90, dire le Front National n'a rien à voir avec le fascisme, bon, c'est imaginer que parce qu'on aurait changé d'époque radicalement, le fascisme ne pourrait pas renaître sous de nouvelles formes, ou le fait qu'il ne pourrait pas y avoir des équivalents en quelque sorte fonctionnels, c'est-à-dire du fascisme, des organisations et des mouvements qui joueraient le même rôle en quelque sorte à notre époque que dans les années 20 et 30, évidemment sous des formes différentes, parce que nous ne sommes pas dans les années qui succèdent à la Première Guerre mondiale. Les êtres humains ne sont pas exactement et culturellement les mêmes. Ils n'ont pas fait, par exemple, tous ces hommes-là, l'expérience de la guerre et de voir mourir et de tuer des centaines ou des milliers de gens autour d'eux. Bon, donc le fascisme renaît avec des nouvelles stratégies, parfois des nouvelles méthodes, pour s'insinuer en quelque sorte dans le corps social, pour progresser, voilà. Et notamment, l'un des paris que fait le Front National en 72, et que Marine Le Pen a maintenu, c'est le pari de l'institutionnalisation, de la normalisation par la voie électorale. Ce que se disent les militants fascistes français à la fin des années 60, début des années 70, c'est qu'ils sont sont condamnés à une forme de marginalité. Ils font des bagarres de rue, c'est l'époque de l'Occident, etc. Jeune nation un peu avant, bon, qui se bagarrent avec des militants de gauche ou gauchistes ou communistes dans le quartier latin ou ailleurs. Mais ils se disent, bon, ça nous excentre du jeu politique et donc il faut trouver une nouvelle stratégie. Et la nouvelle stratégie, c'est créer une nouvelle formation politique, le Front National, trouver quelqu'un pour la représenter, qui soit relativement connu et pas trop assimilé au fascisme. Alors Jean-Marie Le Pen, ça va, parce qu'il était trop jeune pour avoir collaboré, donc il n'a pas été pétainiste à proprement parler.
Oui, et puis les liens de Poujade avec le fascisme sont un peu...
sont complexes.
Complexes, voilà. Un peu à la fois proches et lointains, quoi.
Voilà, mais comme Jean-Marie Le Pen, d'une certaine manière. Et puis de se dire, on va utiliser de manière intensive la scène électorale. Voilà, on va se rendre plus respectable.
On se dédiabolise.
Mais en fait, la stratégie de dédiabolisation n'a pas été inventée par Marine Le Pen. Elle a été pratiquée dès les années 70, alors avec plus ou moins de succès, hein, mais avec plus ou moins d'assiduité. Mais des gens comme Stirbois, des gens comme Bruno Maigret dans les années 80-90 avaient déjà cette stratégie de dédiabolisation. Donc Marine Le Pen l'a poussée jusqu'au bout, en quelque sorte, y compris en excluant son père quand elle a jugé utile stratégiquement de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a été militante du Front National dès 86. Donc pendant 25 ans, elle a accepté toutes les saillies antisémites et négationnistes de son père. Donc elle n'a jamais eu de problème avec ça. Donc c'est vraiment c'est évidemment une tactique. Mais qui a été payante parce que dans les circonstances des années 2010, eh bien, toute une partie du milieu médiatique et politique a entériné en quelque sorte cette stratégie de dédiabolisation, de normalisation, en acceptant d'inviter de plus en plus fréquemment les représentants du Front National, en les interviewant d'une manière extrêmement servile, bien souvent, on demande à Marine Le Pen des nouvelles de ses chats ou ce genre de choses, quoi. On invite de plus en plus, y compris pas seulement Marine Le Pen ou Florian Philippot, à une certaine époque, mais à peu près tous les représentants du Front National aujourd'hui passent dans toutes les chaînes de télé sans que ça fasse aucun problème parmi les journalistes, alors que c'était quand même pas trop le cas dans les années 80 et 90. Hein. Donc voilà, il y a eu quelque chose qui a évidemment beaucoup changé dans les années 2010 de ce point de vue-là, et encore plus dans les toutes dernières années, dans la banalisation de la présence de l'extrême droite dans les sur les ondes, alors pas Radio Libertaire évidemment, mais sur les ondes dominantes.
Tu ne serais pas là.
Dominantes, bien sûr, je ne serais pas là. Et dans ses rapports avec les autres forces politiques, puisque aujourd'hui, on voit très bien comment l'essence, pour les droites, le Front National et le Rassemblement National est beaucoup plus fréquentable que n'importe quelle autre force politique de gauche.
Oui. Sachant que dans les forces politiques de gauche au Parlement, tout le monde se tape sur le ventre, ou presque, quoi.
Quasiment.
Voilà.
On a vu, par exemple, récemment, une représentante du Parti Socialiste, Lamia El-Raj, dire le plus grand bien de Sébastien Chenu, et en disant, je comprends, en le tutoyant, d'ailleurs, raconte qu'elle lui a dit, je comprends pas pourquoi t'es au Front National, tu dis beaucoup de choses qu'on pourrait dire nous, etc. Et d'une certaine manière, elle disait explicitement, l'AFI, et on peut pas discuter avec eux, ils ont plus rien à voir avec la gauche, par contre, le RN, c'est possible, quoi. Enfin, c'est dingue, quoi.
On reviendra sur la dimension anticapitaliste de RN. Mais avant, tu distingues bien, donc, même si on maintient le terme fasciste contre le terme populisme qui a un peu tendance à dissimuler les choses, c'est qu'il y a une grande différence entre le Front National d'aujourd'hui et les mouvements fascistes des années 30, qui étaient des mouvements de masse avec des manifestations de rue importantes et une militance importante. Et en l'occurrence, le RN n'a pas ce substrat.
Alors, c'est vrai, et en même temps, c'est un peu plus complexe que ça, au sens où il y a bien une base de masse pour le Front National.
Mais
c'est
une base d'électeurs.
Voilà, électorale, relativement passive. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de base de masse. Ils ont de grandes difficultés à la mobiliser, mais c'est assez logique dans la mesure où nous sommes dans une période historique qui est quand même radicalement différente de l'entre-deux-guerres du point de vue de la politique de masse. Les années 20 et 30 sont une période de politisation de masse, de politisation à grande échelle, qui est liée en fait à justement aux circonstances de l'après-Première Guerre mondiale, d'une montée des mobilisations populaires, de mobilisations populaires ouvrières. Dans le cadre du mouvement ouvrier traditionnel, avec ses différentes branches social-démocrates, communistes, anarchistes, etc. Mais aussi de mobilisation de masse et de rue d'extrême droite, avec les ligues fascistes en France, avec le Parti National Fasciste et les mouvements fascistes en Allemagne, en Italie et un peu partout en Europe, y compris au-delà de l'Europe. Donc, notre époque est marquée par 40 ans de néolibéralisme et de démobilisation, en quelque sorte, des masses. Et d'une certaine manière, de démobilisation des masses au nom du fait qu'il n'y a plus d'alternative. S'il n'y a plus d'alternative, il n'y a plus de futur, il n'y a plus d'horizon vers lequel on se bat, et ça informe aussi bien la politique d'émancipation sous toutes ses formes, avec toutes les différentes variantes qui se prétendent, en tout cas, qui prétendent proposer une émancipation des classes opprimées, exploitées, etc. Mais ça se voit aussi, évidemment, dans le spectre de la droite de rue ou de la droite qui essaye de mobiliser dans la rue et qui a, évidemment, elle aussi, beaucoup de mal à mobiliser. C'est ce que disent souvent même les groupuscules identitaires quand il y a un meurtre sordide qui cherche à instrumentaliser, etc. Ils se plaignent toujours que les gens sont pas contents, mais ils viennent pas dans la rue. Bon, ils ont raison, c'est vrai que les gens ne sont pas prêts en grande partie à se mobiliser comme ils pouvaient le faire dans les années 20 et 30 avec de grandes manifestations de rue dans le cadre de mobiliser, enfin le 6 février 34 par exemple, mais à de nombreux, les Croix de Feu par exemple, une organisation d'extrême droite dans l'entre-deux-guerres en France dans les années 30 pouvait mobiliser des centaines de milliers de gens, avait des quasiment 1 million d'adhérents à un certain stade. Donc effectivement, on n'est pas dans une époque qui est très favorable à ce genre de mobilisation de masse, et donc l'extrême droite est à l'image en quelque sorte de l'époque, et son pari d'une certaine manière, c'est vrai, c'est même au pouvoir, c'est plutôt de démobiliser que de mobiliser. Alors effectivement, c'est une des caractéristiques singulières du néo-fascisme, qui le distingue nettement du fascisme de l'entre-deux-guerres. Alors pas radicalement, parce que le type de mobilisation que cherchait à promouvoir le fascisme dans les années 20 et 30 n'était pas le type de mobilisation que, en général, dans le mouvement ouvrier, on valorise. Enfin, dans les mouvances qui sont les miennes, en tout cas, c'est valorisant l'auto-organisation, etc. C'est la mobilisation derrière le parti, derrière le chef fasciste, qui est le guide, qui est le sauveur, en quelque sorte, de la nation, de la race, etc., et qu'il faut suivre en tout. Bon. Mais malgré tout, on cherchait quand même à stimuler une certaine activité des masses. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je pense que le pari des organisations d'extrême droite, c'est que parvenant au pouvoir, l'utilisation des forces répressives suffirait en quelque sorte à briser, étant donné d'ailleurs le relatif faible niveau de conflictualité sociale, de lutte de classe, etc., que la mobilisation de la police et éventuellement de l'armée, comme on le voit avec Trump en Californie actuellement, la garde nationale, etc., suffirait à briser les mobilisations contestant le pouvoir d'extrême droite. Pour l'instant, effectivement, ça marche avec Orban, ça peut marcher avec Mélanie, dans la mesure où le niveau de conflictualité est faible. Dès lors que le niveau de mobilisation s'accroîtrait, bon...
On peut faire confiance aux forces de l'ordre.
Voilà. Et eux, ils pensent qu'on peut faire confiance aux forces de l'ordre, c'est-à-dire on peut ne pas avoir besoin de mobiliser des forces paramilitaires, en quelque sorte, comme l'avaient fait les fascistes de l'entre-deux-guerres. Mais voilà, ça renvoie à la fois, je dirais, à un élément de contexte, c'est-à-dire que les fascistes de notre temps n'ont pas à combattre, en quelque sorte, un mouvement ouvrier aussi militant, aussi implanté dans les classes populaires que dans les années 20 et 30, où il y avait des grands partis communistes, il y avait des mouvements anarchistes dynamiques, il y avait des partis sociodémocrates ouvriers, ce que l'on a oublié aujourd'hui, mais qui avaient une vraie implantation, en Allemagne, ouais, en particulier en Autriche. Et donc, les fascistes avaient vraiment besoin de déraciner le mouvement ouvrier dans les années 20 et 30. Aujourd'hui, bon, le mouvement ouvrier est extrêmement affaibli, peu implanté, peu militant, et donc la nécessité de la violence paramilitaire est beaucoup moins importante pour les forces d'extrême droite. Pourquoi ils s'embarrasseraient de ça, en quelque sorte? Ils n'ont pas besoin de s'embarrasser de ça. Il y a ce trait, effectivement, qui les distingue du fascisme de l'entre-deux-guerres.
Soyez là, soyez présents.
Radio Libertaire 89.4, toujours en compagnie d'Hugo Paletta. Comment le fascisme gagne la France, de Macron à Le Pen, aux éditions de La Découverte. On a évoqué une différence entre le fascisme d'aujourd'hui et le fascisme d'hier autour des mouvements de masse, dont on n'a plus besoin ou qu'on n'est plus capable de construire, voire qui ne se heurte plus de front comme il le faisait avant-guerre. Enfin, oui, avant-guerre. Mais il y a aussi une chose qui a visiblement évolué, même si c'est à mots couverts, l'antisémitisme, qui était très présent dans le fascisme en France et en Allemagne encore plus, apparemment est amenuisé. On a vu, par exemple, le président du FN aller en Israël faire une conférence avec la nièce Le Pen, quoi. Ce qui est assez étonnant, quand même.
C'est étonnant et c'est pas et d'une certaine manière c'est pas si étonnant parce que il y a une communauté de pensée politique, de vision politique qui est assez sidérante entre l'extrême droite israélienne au pouvoir, d'abord par haine et racisme anti-arabe, très nettement, mais aussi même tout simplement l'idée de cette pureté en quelque sorte de la communauté nationale, plutôt ethno-nationale, et enfin qui serait entachée justement par la présence de minorités, et en l'occurrence en plus de minorités arabes dans les deux cas, et de minorités voire de majorités dans le cas de la Palestine historique. C'est quand même quelque chose qui fait sens pour eux. Et puis par ailleurs il y a une nécessité tactique là encore de la part du Front National. Comment se mettre à distance, disons, l'antisémitisme qui a longtemps été ce qui a contraint le Front National dans son ascension, en quelque sorte. Hein. Louis Alliot, qui était le numéro 2 du parti à l'époque et le compagnon de Marine Le Pen, avait dit explicitement, nous, avec Marine, on avait très bien compris depuis longtemps que ce qui nous empêchait de passer le seuil des 15, 16, 17%, c'était l'accusation d'antisémitisme. Donc, tactiquement, en gros, on va s'en débarrasser et puis on va pouvoir... Et effectivement, c'est ce qui s'est passé dans les années 2010. C'est-à-dire que le Front National a maintenu sa rhétorique anti-immigrés, xénophobe, a intensifié ses accusations contre les musulmans, l'islam, etc. Mais effectivement, a mis en sourdine l'antisémitisme, le négationnisme, voire a viré tous ceux et toutes celles qui commettaient ce type de déclarations.
Encore que là, il y a un beau scandale avec l'ancienne porte-parole de Marine Le Pen, la députée Parmentier, c'est ça?
Voilà, tout ça, c'est du vernis. Évidemment, ils ont été biberonnés à la nostalgie du péténisme, à l'antisémitisme, à toutes ces théories complotistes sur la banque juive, le capital juif, financier, etc.
Bon, voilà, donc judéo et maçonnique.
Voilà, bien sûr. Mais ça a toujours été très présent et c'est toujours présent dans la formation politique d'une grande partie des cadres les plus anciens, disons, du Front National. Mais même en réalité, Marine Le Pen, tout ça, et tous ces gens ont été biberonnés à l'antisémitisme. Donc, l'idée, c'est pas de dire que l'antisémitisme a disparu. C'est à l'extrême droite. Au contraire, moi je pense qu'il reste très présent en filigrane derrière cette idée fondamentale dans l'antisémitisme classique de l'extrême droite, qui est l'idée d'une communauté nationale qui serait mise en péril par des éléments que maintenant l'extrême droite appelle mondialistes. Mais le mondialisme, comme l'extrême droite disait, la finance cosmopolite dans les années 20 et 30, c'est un nom qu'ils utilisent pour parler en réalité à bien souvent des juifs, en fait. La banque juive, les financiers juifs, d'ailleurs. Dans la Hongrie de Orban, le nom qui vise en quelque sorte à dire cela sans avoir à dire les juifs, c'est Soros. Soros est devenu
le
grand financier, mais qui finance effectivement des ONG, disons favorables aux droits humains, favorables aux réfugiés, etc., qui défendent les droits des réfugiés. Bon, Soros, du coup, est perçu à la fois comme un banquier juif et en même temps comme un wokiste, quelqu'un qui aide les migrants, etc. Donc c'est parfait, évidemment, dans la rhétorique ethno-nationaliste, réactionnaire, anti-immigrant, de Orban, et puis ça permet de jouer de manière implicite sur l'antisémitisme qui reste présent dans les populations européennes, quoi qu'on dise. D'ailleurs, les enquêtes, la enquête tout à fait récente de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le montre très bien. C'est dans l'électorat de l'extrême droite que les préjugés antisémites vis-à-vis des juifs restent les plus forts et de loin. Et c'est quelque chose que ces enquêtes montrent depuis longtemps. Donc voilà, donc l'antisémitisme n'est pas remplacé par l'islamophobie, mais il est mis mis en sourdine parce que l'islamophobie, évidemment, ou la haine, ou l'hostilité vis-à-vis des musulmans, et la construction de l'islam comme une sorte d'ennemi fondamental de l'Europe, de l'Occident, de la France, et qui mettrait en péril l'intégrité de notre pays, etc., mettez des guillemets autour de ça, de notre civilisation. L'islam a été construit comme tel depuis plus de 40 ans, en réalité. En Occident, on pourrait presque le situer avec la révolution islamique en Iran.
Voire avec Charles Martel, hein.
Oui, d'une certaine manière. Mais alors, ce qui est intéressant dans Charles Martel, c'est la manière dont l'extrême droite contemporaine instrumentalise ou réécrit une forme d'histoire ou s'appuie, disons, sur certaines réécritures de l'histoire de Charles Martel, arrêtant les Arabes à Poitiers, etc. Bon, voilà. Mais voilà, il y a une réécriture d'un récit pluriséculaire qui permet de dire la France, d'une certaine manière, les ennemis de la France ont toujours été ces Arabes musulmans qui visent toujours à conquérir notre pays, nos femmes, violer nos femmes, détruire nos coutumes, nos mœurs, nos traditions, etc. Bon, et donc c'est voilà, l'islamophobie, c'est ça, d'une certaine manière, c'est un racisme qui instrumentalise la religion musulmane et les musulmans, les pratiquants,
les pratiquants, voire même qui assimilent tous les gens d'origine arabe à des islamistes, quoi.
Bien sûr, voilà.
Dans le mouvement arabe. Dans la population arabe ici, il y a quand même pas mal de gens qui sont athées comme moi sûrement.
Ou peu pratiquants.
Ou
à distance, on va dire, effectivement, de la pratique. Pour qui c'est surtout voilà une forme de culture dans laquelle ils ont été baignés. Oui,
comme
enfants,
les Bretons, et comme d'ailleurs comme les Juifs.
Mais effectivement, le racisme, de toute façon, mais de la même manière que l'antisémitisme, il y avait de nombreuses personnes qui avaient été élevées dans des familles juives, mais qui se reconnaissaient pas dans le judaïsme. L'historien Isaac Deutscher, lui-même juif, avait parlé de ce qu'il appelait des juifs non-juifs. Mais face à un antisémite, un juif est toujours un juif, en quelque sorte, même s'il ne se reconnaît pas dans cette identité. Et donc, c'est ça, le racisme a ce côté, évidemment, c'est cette dimension d'assignation. Il vous assigne à une position. Évidemment, il vous assigne par ailleurs à une position de menace, de problème et de menace. C'est ce que fait le racisme. C'est qu'il constitue des groupes en problème. Les musulmans sont un problème. Les arabes sont un problème. Les immigrés sont un problème. C'est un problème pour l'emploi. C'est un problème un problème en termes de sécurité. C'est un problème en matière d'échec scolaire. Ça peut être un problème pour tout. Terrorisme, évidemment, aussi. Et les constitue comme problème et comme menace. Une menace pour la nation, pour la civilisation, pour sa pérennité, en quelque sorte. Et voilà. Donc, l'extrême droite a bien compris que le racisme respectable de notre temps, celui qui pouvait être dit dans l'espace médiatique et politique, c'était plus l'antisémitisme, pour plein de raisons, et pour d'ailleurs de bonnes raisons. C'est bien, d'une certaine manière, que dans l'espace médiatique et politique, on ne peut plus affirmer, comme dans les années 20 et 30, sa haine des juifs, ses récits complotistes sur l'antrisme des juifs, mais maintenant c'est l'antrisme des musulmans. Mmh. Les musulmans font de l'antrisme dans toutes les institutions, à l'école, à l'université, dans les médias, etc.
Les associations sportives.
Les associations. Voilà, tout ce thème de l'antrisme. Je comprends même pas comment on ne voit pas à quel point ce discours de l'antrisme, c'est le même discours qu'il y avait sur les juifs dans les années 20 et 30, sur l'infiltration des juifs dans tous les milieux, dans la presse, dans nos écoles, etc., et comment ils pervertissent nos enfants, et comment ils pervertissent les esprits, etc. Bon, on a cette même rhétorique aujourd'hui à l'encontre des musulmans, et des musulmans présumés en quelque sorte, d'un islam largement imaginaire en réalité, et complètement construit par le discours politique et médiatique. Mais donc l'extrême droite a bien compris que c'était plus confortable pour elle de s'inscrire dans cette vague de ce discours islamophobe médiatique politique, que celui-ci pouvait être dit facilement dans l'espace public, que ça ne lui vaudrait pas des accusations justement de racisme, de xénophobie, etc. Et elle peut d'une certaine manière apparaître comme simplement ceux qui sont les plus conséquents face à un ennemi réel que serait l'islam et les musulmans pour la société française. Ce qui est beaucoup plus confortable que quand vous pratiquez comme Jean-Marie Le Pen l'antisémitisme, vous êtes effectivement poussé hors du champ politique légitime, de la parole légitime. Vous dites quelque chose qui est considéré comme par l'essentiel du champ politique et médiatique comme scandaleux. Or, Marine Le Pen dit des choses absolument scandaleuses, mais comme Bruno Retailleau, comme bien d'autres aujourd'hui, mais qui ne paraissent pas scandaleuses dans l'espace médiatique tel qu'il est aujourd'hui, qui s'est construit sur une parole anti-immigré très décomplexée, une parole anti-musulman très décomplexée depuis bien longtemps. On peut avoir des hommes de médias comme, je sais pas, Yves Tréhard du Figaro qui disent, moi, quand je vais dans un bus et qu'il y a une femme qui porte un foulard, je m'en vais du bus. Est-ce qu'on pourrait dire ça avec quelqu'un qui porte une kippa ? Non, et heureusement d'ailleurs. Mais on peut le dire par rapport à une femme qui porte un foulard. Il n'y a pas de problème. Bon, on voit bien que là, ce deux poids deux mesures, il est d'abord, il est évidemment insupportable pour ceux et celles qui sont ciblés par cette rhétorique anti-musulman. Mais comment il permet à l'extrême droite de se normaliser, puisque finalement son cœur de métier qui est le racisme et la xénophobie et le fait de constituer des groupes comme ennemis de la nation, eh bien est facilité par le fait que beaucoup d'autres représentants politiques et médiatiques qui ne sont pas associés à l'extrême droite, eh bien tiennent ces discours en permanence dans les médias.
Oui. Et à ce point de notre échange. Le RN s'est institutionnalisé, il est devenu très électoraliste. Il n'y a plus de mouvement de masse, voire avec des groupes, sauf peut-être les groupes identitaires, des groupes armés de type milice. L'antisémitisme est mis sous le paillasson.
Mais toujours là, prêt à renaître.
Voilà, le propos anti-arabe est très prégnant. Est-ce qu'on doit quand même oser dire que le Rassemblement National est une organisation fasciste?
Oui, d'une certaine manière, pour moi, sa vision du monde est fasciste. Alors effectivement, ses méthodes, parce que fascisme est un mot qui peut qualifier pas mal de choses. Des idées, des symboles, des méthodes d'action, des pratiques, donc des mouvements, des régimes, etc. Le Front National me semble être un parti qui promeut une vision du monde fasciste. Je peux la décliner, hein, l'obsession du déclin, la connexion de ce déclin de la nation avec l'idée avec cette paranoïa civilisationnelle qui est que l'immigration serait une submersion et une destruction de la nation, de notre civilisation, etc. La haine de l'égalité et de tous les mouvements qui portent une exigence d'égalité, le mouvement d'une certaine manière syndical, même au sens basique du terme, le féminisme, l'antiracisme, etc. Et puis cette idée proprement fasciste qui vraiment, à mon avis, fait passer d'une simple vision d'extrême droite à une vision proprement fasciste, qui est pour faire renaître la nation, il faut la purger. Il faut l'épurer de ces minorités tyranniques, la minorité juive antérieurement ou la minorité musulmane aujourd'hui, et de tous les mouvements de contestation qui empêchent la nation d'être unanime, en quelque sorte, hein, d'être unifiée et de retrouver, comme dirait Trump, sa grandeur passée. Évidemment passé. Donc le Front National promeut cette vision du monde, et promeut de fait ce projet-là qui est de faire renaître la nation en l'épurant de ses ennemis et des ennemis et des traîtres, etc. Quoi. Les traîtres étant évidemment la gauche, hein, la gauche considérée par Zemmour comme le parti de l'étranger, en reprenant une vieille expression de l'extrême droite antisémite type Drummond, 19e siècle, etc. Donc oui, je pense qu'il faut la qualifier de fasciste, même si ses méthodes à proprement parler ne sont pas celles des fascistes de l'entre-deux-guerres. Oui. Sa méthode, sa stratégie est électoraliste, institutionnelle. Alors ça ne veut pas dire que navigue pas effectivement autour du RN des groupuscules identitaires, dits nationalistes révolutionnaires, qui n'ont rien de révolutionnaire évidemment, ce sont des groupuscules proprement contre-révolutionnaires, l'Action française, etc., qui eux ont une pratique qui ressemble davantage à ce qu'on associe au fascisme de l'entre-deux-guerres, notamment des méthodes d'action violente à l'encontre, là encore, des mouvements d'émancipation de gauche, antiracistes, féministes, syndicaux, des mouvements des minorités. Hein. On sait que, par exemple, certains s'étaient organisés pour aller agresser dans la rue, voire poignarder des supporters du Maroc pendant la dernière Coupe du Monde, parce qu'il y avait une demi-finale entre, je crois, le Maroc et la France, un truc comme ça. Bon, voilà, il y a ces groupuscules. Effectivement, ils ne trouvent pas une audience de masse à ce stade. Mmh. On a vu des situations dans une période qui n'est pas si ancienne, hein, en Grèce, autour des oui. début des années 2010, avec l'émergence d'un parti, voilà, Obdoré, qui était un parti, pour le coup, qui avait à la fois cette branche parlementaire, parce qu'ils avaient commencé à se développer sur un plan électoral, ils avaient fait entre 10 et autour de 10% aux élections, ils avaient des députés à l'Assemblée, hein, et ils avaient des milices de rue d'une taille tout à fait conséquente, et ils avaient assassiné d'assez nombreuses personnes, notamment un rappeur, Pablo Suissas, mais aussi des immigrés, pakistanais notamment. Et par ailleurs, c'était un groupe mafieux. Donc, ils ont été condamnés, ils font de la prison. La grande majorité des dirigeants d'Obdoré aujourd'hui est en prison suite à leurs agissements mafieux. Mais on voit comment, dans des circonstances particulières, qui est l'énorme cure d'austérité imposée à la population grecque au début des années 2010, ouais. On pouvait avoir la renaissance de partis d'extrême droite, pas simplement institutionnels, mais y compris avec une vraie base de rue, avec une vraie base violente, des milices de rue organisées d'une manière paramilitaire et capables de s'en prendre violemment au mouvement ouvrier, à la gauche, aux immigrés, aux minorités, etc.
Dans un pays extrême droite, on se torche avec les lois, y'a plus d'urbain pour ça. bonne couleur du transparent. Dans un pays d'extrême droite, la justice porte le képi, règne de mort au coin de la rue. Dans un pays d'extrême droite, on y parle beaucoup de Dieu, parce que ça fait longtemps qu'il a quitté les lieux. La musique est militaire, ses instruments sont la haine et la guerre. Dans un pays d'extrême droite, tu dis pas non à tout bout de champ, ou alors au bout du champ de tir. Dans un pays d'extrême droite, les femmes peuvent bien avorter, mais un grand coup de baïonnette.
Radio Libertaire, 89.4, les chroniques syndicales, toujours avec Hugo Paletta, autour de « Comment le fascisme gagne la France » aux éditions de La Découverte. Voilà. On a évoqué ce Rassemblement National qui ne se veut plus antisémite mais qui l'est et qui est toujours fondamentalement raciste et excluant. Mais il y a aussi un discours alors qu'on a pas mal entendu quand il y avait Philippot aux affaires en particulier, où il y avait des sons plutôt anticapitalistes, critiques du libéralisme, voire du néolibéralisme. C'est une vraie inclinaison à gauche du Rassemblement National, ou là encore, comme sur la question de l'antisémitisme, c'est pour cacher la réalité foncière de cette organisation.
On pourrait presque revenir au fascisme de l'entre-deux-guerres. Il y a toujours eu dans les mouvements, ces mouvements-là d'extrême droite, fascistes, et puis ensuite néo-fasciste, une volonté de s'adresser aux classes populaires. Et de s'adresser aux classes populaires, aux franges paupérisées des classes populaires. Quand je dis classes populaires exprès, parce que ça peut inclure à la fois certains segments, certaines branches des classes, de la classe ouvrière, c'est-à-dire des travailleurs salariés de différents secteurs, mais notamment par exemple de l'industrie ou du bâtiment, ou même des services en quelque sorte, commerce, soins aux personnes, etc. Mais aussi les branches paupérisées de la petite bourgeoisie, petits producteurs, petits artisans, petits commerçants, etc.
Donc
petits
paysans aussi.
Petits paysans, bien sûr.
Les chemises vertes ici.
Tout à fait. Ouais. Voilà, il y a eu des mouvements paysans, fascistes ou fascisants. Mais donc les mouvements d'extrême droite fasciste ont toujours voulu s'adresser à eux en parlant à leurs préoccupations, etc. Alors de manière très opportuniste, puisque le propre du fascisme des Mussolini, c'est de tenir à toutes les couches sociales le langage que cette couche sociale espère entendre en quelque sorte. Donc si on est face à des patrons comme Hitler à Düsseldorf en janvier 32, on va leur dire exactement ce qu'ils veulent entendre, à quel point on va libérer le capital de toute forme d'entrave syndicale ou réglementaire ou juridique ou autre. Et puis si on est face à des ouvriers, on va leur dire qu'on va aller défendre leurs intérêts face à un capitalisme prédateur, à une finance cosmopolite qui les empêche de gagner ce qu'ils devraient gagner, etc. Bon, et Mussolini était passé maître d'ailleurs dans cet art de dire à chacun ce qu'il veut entendre en quelque sorte. Donc le fascisme a toujours eu cet aspect parce qu'il veut séduire les masses. Le fascisme, ce qui le distingue par exemple de l'extrême droite, je dirais contre-révolutionnaire du 19e siècle en France, qui voulait revenir à l'avant 1789, ou même la différence avec l'extrême droite militaire type Pinochet, c'est que l'extrême droite fasciste, fascisante ou néo-fasciste, elle cherche à s'adresser aux classes populaires. Alors, sous une forme plus ou moins électorale, ou parfois sous une forme plus militante, mais elle cherche à s'adresser à eux, à leur parler, à tenir un langage qui puisse, disons, trouver leurs oreilles, en quelque sorte.
L'image la plus forte, c'est national-socialisme.
Voilà. Bon. Et évidemment, le socialisme, dans le national-socialisme, n'a jamais été qu'une illusion, puisque au pouvoir, ils ont favorisé...
Dès 1933, ils écrasent les syndicats, les organisations de gauche.
Exactement. On détruit toutes les organisations de défense des intérêts et de la classe ouvrière. Et puis on favorise outrageusement le capital qui n'a jamais fait autant de profits que sous le Troisième Reich.
Ouais, 14-18 quand même, ils avaient fait.
Oui, voilà. Pendant les guerres, effectivement, les grands groupes, notamment de l'armement.
De Vindel et tous ces gens-là, Schneider.
De très grands profits. Hein.
Groupes.
Mais le fascisme, c'est la guerre aussi. Hein. Ouais. D'une certaine manière, la perspective de la guerre pouvait que promouvait le fascisme de facto pouvait sembler séduisante à ces groupes, à l'industrie lourde, hein, comme disait Daniel Guérin, qui avait insisté sur le soutien de.
Ouais, le fascisme et grand capital,
par exemple. Grand capital. Dans Fascisme et grand capital, il insiste sur le fait que ce sont les industries lourdes, celles notamment de l'armement, celles qui produisent pour l'État, sur des commandes d'État, qui avaient le plus favorisé le nazisme, beaucoup plus que ce qu'il appelle l'industrie légère, celle qui produit des biens de consommation, etc., qui, elle, avait soutenu davantage d'autres forces, etc. Bon, ce que je veux dire, c'est que le Front National, dans des circonstances qui ne sont pas exactement les mêmes que dans l'entre-deux-guerres, notamment, qui sont marquées par le fait qu'ils subissent moins la concurrence des mouvements communistes et socialistes. Il faut quand même se reporter dans l'entre-deux-guerres, les mouvements qui sont dynamiques, dont, enfin, à ce moment-là, beaucoup en Europe pensent que l'avenir, c'est le socialisme. C'est le socialisme. D'abord, le socialisme et les révolutions socialistes et ouvrières hantent, en quelque sorte, les bourgeoisies, parce qu'il y a eu la révolution de 17, alors là, on en fait l'appréciation qu'on veut, mais il y a eu la révolution en Bavière, il y a eu la révolution en Hongrie, il y a eu une révolution en Finlande, il y a eu les deux années rouges en Italie, il y a Vienne la Rouge, etc. Est-ce qu'elle était vraiment rouge, etc.
Rose.
Elle était rose, bon. Mais d'une certaine manière, le mouvement ouvrier, on le disait tout à l'heure, est très implanté. Il y a quand même une vraie présence militante. Les grands propriétaires terriens financent le fascisme en Italie parce qu'ils font face à des ouvriers agricoles qui se syndiquent et qui obtiennent des conquêtes sociales au début des années 20. Donc voilà, là on n'est pas exactement dans la même période de combativité ouvrière très forte, de force des mouvements communistes, etc. Mais malgré tout, notamment en France, parce qu'il y a quand même une conflictualité sociale qui n'est pas négligeable en France comparée à d'autres pays européens, le Front National a assez vite compris, je pense que c'est Marine Le Pen pour l'essentiel notamment, hein, et c'est elle qui a fait venir Philippot, etc. Bon, mais a compris dans les années 2000 qu'il fallait parler à ces préoccupations de la population française. Ils ont vu, par exemple, les mouvements de masse qu'il y a eu contre le contrat première embauche dans les années 2000, qui était un contrat précaire qu'on voulait, que le gouvernement Villepin à l'époque voulait imposer à la jeunesse, au moins de 25 ans. Ils ont vu le non au traité constitution européen, européenne, voilà, qui notamment s'était fait par opposition au fait de tout libéraliser. On se souvient de la directive Bolkestein qui visait, bon là encore, à mettre en concurrence encore plus les salariés des différents pays européens entre eux. Et donc, Marine Le Pen s'est attachée à l'idée de parler à ces préoccupations sociales-là. Alors, pas avec un discours à proprement parler, je dirais, anticapitaliste, même s'il arrive à ses représentants récemment de parler du capitalisme, mais toujours en parlant du capitalisme financier, mais vraiment sous l'angle, voilà, de la finance, jamais, évidemment, du capitalisme au sens où nous, on va l'entendre, c'est-à-dire au sens où le capitalisme repose sur l'exploitation du travail salarié par le capital dans le cadre de n'importe quel type d'entreprise et pas simplement une exploitation par la finance, de marché, etc. Bon. Mais voilà, elle va tenir un discours contre la finance, contre la mondialisation, ou ce qu'elle appelle plutôt d'ailleurs le mondialisme financier, elle dit parfois le totalitarisme financier, un discours qui peut paraître très maximaliste d'ailleurs, très fort contre la finance, etc.
Si c'est comme notre ami Hollande qui était contre la finance,
oui,
aussi,
voilà,
on voit peu près où ça va aller, quoi.
Ça vaut évidemment la même chose, c'est-à-dire ça vaut rien, en fait. Hein. Elle va parler des conditions de travail qui se détériorent, elle va parler des délocalisations. En fait, c'est tout un discours de déploration sociale. Le discours social du FN, c'est ça. C'est pas un discours qui propose quelque chose pour les classes populaires en réalité, quand on regarde même le programme. Alors évidemment, dans les années 2010, il y avait un programme qui, malgré tout, empruntait un peu plus à la gauche. À un moment, ils ont même parlé de renationalisation de certains secteurs, dans l'énergie, par exemple, ou dans le ferroviaire, etc. Alors ils ont abandonné tout ça. Hein. Ils ont à peu près abandonné tout ce qu'ils avaient mis au programme qui pouvait apparaître un tant soit peu de gauche ou anti-libéral. Le seul truc qui est resté, c'est la retraite à 60 ans uniquement pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes, parce que pour tous les autres, ce sera 63, 64, 65, voire 67 ans, si on suit les propositions qu'ils font. Donc, c'est pas du tout un programme qui est fondamentalement en défense des classes populaires, mais il y a toute une rhétorique qu'ils pratiquent quand même assez assidûment, notamment des gens comme, c'est plus Philippot, évidemment, il n'y est plus, mais quelqu'un comme Jean-Philippe Tanguy, par exemple, aujourd'hui.
Qui est le numéro 2 au Parlement.
Voilà, en gros, voilà, le numéro 2 au Parlement, qui lui tient, ou Sébastien Chenu, tiennent des discours qui peuvent paraître sociaux si on écoute d'une oreille, en quelque sorte. Et
Et si on ne s'attache pas aux contradictions, parce qu'il y a une très forte contradiction qu'on pourrait dire très très simplement, c'est d'un côté le Front National prétend défendre les services publics, prétend défendre les conditions sociales des classes populaires, la sécurité sociale, etc. Et en même temps, ils disent qu'il faut prendre les cotisations et les donner aux gens. Bon, arrêtez de mettre de l'argent dans les caisses en quelque sorte. Hein, il faut redonner aux Français leur argent.
Fonctionner à l'américaine, on sait ce que ça donne en plus voilà. Au niveau des retraites, au niveau de la sécu et tout ça. Ouais.
Voilà. Et si demain on prend sur les cotisations, on le donne directement ça. En gros, on sait très bien que la sécu va mourir assez vite. Bon, puisque le financement de la sécu repose sur les cotisations, etc.
Oui, salaire différé, quoi.
L'idée d'un salaire même socialisé, disons, hein, le fait qu'on met en commun une partie de notre salaire pour financer les dépenses de santé, pour financer les retraites, pour financer les allocations chômage, etc. Donc tout ça, c'est évidemment un vernis, mais faut pas sous-estimer le fait qu'il y a un appel de l'extrême droite à des préoccupations sociales qui sont présentes effectivement dans l'ensemble des classes populaires, parce que l'ensemble des classes populaires subissent effectivement les politiques de précarisation, de privatisation, de destruction progressive du droit du travail, c'est-à-dire d'un certain nombre de conquêtes qui ont été juridiques.
Et des services publics.
Et évidemment, voilà, des services publics. Hein. Donc le FN cherche, le Rassemblement National aujourd'hui, cherche à s'adresser à ça, sans véritablement proposer une alternative, ça on le sait. Mais... dans une situation où les partis bourgeois traditionnels où Macron par exemple mène une politique très dure, une offensive très très brutale de dégradation des conditions de vie de la population et par exemple des retraites, du système de retraite, etc. Le simple fait de dire nous on va aller moins loin, même si de fait ils vont quand même continuer à rallonger les carrières des gens, hein. Ça peut apparaître comme crédible et intéressant pour une partie des classes populaires. En tout cas, ça peut ne pas les empêcher de voter pour le Front National, en sachant qu'en réalité, quand on demande aux gens pourquoi ils votent pour le Front National, c'est pas tellement pour des questions sociales. Bon, des fois, ils mentionnaient le pouvoir d'achat, mais en réalité, ce qui ressort en permanence, c'est immigration, insécurité et bien souvent aussi islam ou ce genre de choses. Et en fait, même les revendications des électeurs du Front National en termes de pouvoir d'achat ne sont pas déconnectées de l'immigration. Il y a un sociologue, Félicien Faury, qui a fait une enquête sur les électeurs du Front National il y a quelques temps, une enquête de terrain. Hein, il montre bien comment, en général, quand on demande à des électeurs du Front National comment leur situation pourrait s'améliorer sur le plan matériel, des revenus, etc. Ils disent pas tellement il faudrait augmenter les salaires, il faudrait imposer aux patrons d'augmenter les salaires, ou il faudrait prendre sur les profits, etc. Parce qu'en général, ils ont tendance à considérer que les patrons, les capitalistes sont en fait intouchables, ils sont trop puissants, ces électeurs-là, hein, en tout cas. Ils ont tendance à considérer que leur situation pourrait s'améliorer si on prenait à ceux qui ne devraient pas être là ou qui, étant là, ne devraient rien toucher. C'est-à-dire notamment les immigrés, les réfugiés, etc. Et que leur situation irait mieux si l'État cessait, en quelque sorte, de donner de l'argent indûment à des gens qui ne méritent pas d'être là et ne méritent certainement pas de toucher de l'argent de la part de l'État français. C'est une vision qui connecte, en quelque sorte, le pouvoir d'achat à la question de l'immigration. Alors que nous, évidemment, notre tendance, et une politique, disons, de gauche, pour faire vite, au sens vraiment très large du terme, postule que pour améliorer la situation des salariés, des exploités, il faut prendre sur les profits, il faut renverser le rapport de force entre les riches et les pauvres, entre les classes dominantes et le prolétariat, ou les classes populaires au sens sociologique du terme.
Si je te mêmes discours, les mêmes slogans, les mêmes aboiements à ma sœur.
Radio Libertaire, 89.4, les chroniques syndicales, avec Hugo Paletta autour de la question de la montée du fascisme en France et malheureusement ailleurs. Donc, tu as montré qu'il y avait un parti lié d'une certaine manière entre capitalisme et fascisme, c'est-à-dire que le capitalisme, quand il se sent en danger ou je ne sais pas quoi, peut faire appel à ses ordres brunes. Et on en arrive à la situation actuelle dans le pays, et voire en Europe, la fascisation, quoi. Et je dis en Europe, on pourra parler des États-Unis aussi, quoi. Donc, comment ça se fait que nos sociétés glissent vers le fascisme, sachant que nos sociétés savent de quoi sont capables ces gens?
Elles savent ou elles ne savent pas, ou alors elles ne sont pas en capacité. Enfin, le truc, c'est que c'est pas si simple d'apprendre en réalité de l'histoire. Souvent, on s'imagine que l'histoire nous apprend des choses, mais en fait, on ne reconnaît pas forcément les mêmes phénomènes politiques. Beaucoup de confusion en réalité. Je trouve ça assez sidérant, par exemple, cette idée que le Front National, on l'a évoqué, hein, mais n'aurait rien à voir avec le fascisme, étant donné sa généalogie, le type de discours qu'il préfère. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui sont absolument convaincus que tout ça n'a rien à voir. Enfin, mais oui, il y a un lien évident et étroit entre fascisme et capitalisme, contre une forme de légende. Une légende libérale d'ailleurs, hein, bourgeoise, qui est que le fascisme aurait été anticapitaliste, effectivement, qu'il aurait nationalisé. On a vu Elon Musk dire ça d'ailleurs récemment dans un meeting de l'AFD en Allemagne, que le fascisme c'était du socialisme, du communisme, ouais, tu l'as dit, national-socialisme. Ouais. Le socialisme n'a jamais eu de début, de quart de réalité, que ce soit en Italie fasciste ou en Allemagne nazie. Hein. En réalité, c'était une politique étatiste, ça c'est vrai, mais en faveur du capital, oui. Et qui visait à écraser le mouvement ouvrier, les contestations ouvrières.
On sait que État et capital, ça fonctionne bien ensemble.
Bien sûr,
il suffit de regarder la Chine ou le Vietnam aujourd'hui.
Bien sûr, là encore, c'est qu'il y a une espèce d'opposition stupide entre État et capital qui est faite par les libéraux et qui, en réalité, par l'idéologie libérale, parce que les libéraux au pouvoir savent très bien utiliser l'État au profit du capital.
Dans ses fonctions régaliennes.
Alors, mais même pas seulement, c'est-à-dire dans ses fonctions régaliennes, c'est vrai, l'usage de la force vis-à-vis des contestations, notamment ouvrières, mais aussi anti-guerre, par exemple, ou ce genre de choses, mais aussi utiliser l'État d'un point de vue économique pour ouvrir des nouveaux marchés, pour
passer des commandes.
Pour passer des commandes d'État, exactement. Pour relancer la dynamique de l'accumulation du capital. Les capitalistes n'ont jamais, et de l'époque de Marx jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais hésité à utiliser l'État d'un point de vue économique, à faire intervenir l'État dans l'économie. Et le néolibéralisme, contrairement là encore à une légende, hein, n'est pas le retrait de l'État. C'est l'utilisation de l'État, d'ailleurs bien souvent de manière intensive, pour créer du marché là où il n'y en avait pas, pas simplement pour réprimer, hein, pour organiser le marché. On voit, il y a une intense activité étatique, par exemple, pour défaire la SNCF, en faire un marché, tout le ferroviaire, etc. Effectivement, on arrive à une question qui est complexe, c'est que on pourrait se dire, les partis bourgeois traditionnels, le capital est très content avec Macron ou LR. Le problème qu'ils ont, c'est qu'il y a une crise politique. Une crise politique un peu partout, qui est plus ou moins aiguë selon les pays. Et ils ont un problème d'hégémonie, au sens de Gramsci. C'est-à-dire que la classe capitaliste n'a pas simplement besoin d'instruments de répression. Évidemment, elle a besoin d'instruments de répression. Elle n'a pas besoin seulement d'exploitation dans les entreprises. Elle a aussi besoin, d'une certaine manière, que la population ne se révolte pas. Que la population reste disciplinée. Bon. Et pour ça, c'est moins coûteux en réalité de produire ce que effectivement Gramsci appelait du consentement à la domination. Alors, un certain degré de consentement, le consentement est jamais total. Bon, à la domination, alors, c'est rare en tout cas. Mais un certain degré, au moins de passivité, voire de consentement un peu actif à l'exploitation, à la domination et aux politiques qui sont menées. Or, le problème, c'est que la plupart des forces politiques dans la plupart des pays, mais notamment en France, sont décrédibilisées dans cette fonction-là. Ne produisent plus de consentement. Que ce soit Hollande, très vite, il a été impopulaire. C'était le cas aussi de Sarkozy en 2007. C'était le cas de Macron, qui a été très vite impopulaire. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes à peine un an après son arrivée au pouvoir. Il y a eu des grands mouvements sociaux quasiment chaque année contre ces politiques.
C'est le cas de Bayrou qui vient d'arriver, là.
Bien sûr. Voilà. La réforme des retraites a été refusée par 92% des actifs. Enfin, y compris des petits indépendants, pas que des salariés ouvriers employés. Presque toute la population active était hostile à cette réforme des retraites. Tous les syndicats, même les syndicats de cadres, étaient hostiles à la réforme des retraites. Enfin, contre-réforme des retraites. Donc, il y a un problème de consentement. Et donc, un des paris du capital peut être de se dire, ces forces d'extrême droite, avec lesquelles elle ne voulait pas frayer. Hein. Avant, le MEDEF n'invitait pas l'extrême droite à ses universités d'été, par exemple. Ou même au moment des élections, ne les invitait pas à présenter leur programme. Ils ont changé d'attitude. Parce qu'ils se disent, ces forces peuvent constituer pour nous un point d'appui. Pourquoi ? Parce qu'elles ont une implantation relativement solide dans la population, et notamment dans une partie des classes populaires. Ce que n'ont pas du tout les partis de droite traditionnels, ce qu'en a pas du tout Macron. Du fait de cette rhétorique anti-libérale, anti-finance, voire quasiment anti-capitaliste à certains moments, l'extrême droite est parvenue à construire une certaine base sociale dans une partie, en tout cas, des classes populaires. On pourrait d'ailleurs préciser, hein, une partie plutôt dans les zones rurales, les petites villes, plutôt les classes populaires blanches, plutôt des classes populaires installées et stabilisées plutôt que les classes populaires les plus précaires des villes, etc. Bon. Mais donc, ils ont une base, et donc la classe capitaliste peut se dire, pour imposer les politiques qui nous semblent nécessaires, impératives, pour relancer la dynamique d'accumulation du capital, ces forces d'extrême peuvent être un appui, un levier, en quelque sorte. Bon. Et donc, la fascisation, pour en arriver là, la fascisation, c'est pas une fascisation tellement, pour moi, de la population à proprement parler, même si elle prend aussi en partie dans la population. C'est d'abord une fascisation qui passe par en haut. Typiquement, on parlait de l'islamophobie tout à l'heure, mais on pourrait parler du populisme pénal, ce qu'on appelle comme ça en sciences politiques. C'est-à-dire le fait d'en appeler à des solutions toujours plus répressives, sécuritaires, vis-à-vis de la délinquance et des questions d'insécurité. Bon. Ce populisme pénal, il est venu par en haut. Il est venu depuis les années 80 par des discours en permanence appelant à toujours plus de répression vis-à-vis notamment de la jeunesse, vis-à-vis notamment de la jeunesse des quartiers populaires, vis-à-vis notamment de la jeunesse issus de l'immigration, etc. Et c'est vrai aux États-Unis vis-à-vis de la jeunesse afro-américaine ou latino, dans les quartiers les plus pauvres, etc. Et pareil pour le racisme, la homophobie, le racisme à l'encontre des Roms, des Gitans, etc. Le racisme à l'encontre des immigrés. Tout ce discours-là a été largement construit par en haut, par des discours politiques, médiatiques, etc. Et donc cette fascisation, c'est d'abord une fascisation des élites et de pans entiers des élites. Pas simplement parce que elle favorise de plus en plus, elle finance de plus en plus les forces d'extrême droite, ça c'est l'aspect peut-être le plus visible, y compris pas simplement parce que les représentants d'extrême droite sont de plus en plus présents dans les médias, mais à travers les discours de représentants politiques traditionnels, ça peut aller du PS, genre de Manuel Valls ou François Hollande, jusqu'à la Macronie, en passant par LR, Bruno Retailleau évidemment aujourd'hui, mais ça pouvait être d'autres auparavant, Wauquiez, etc. Et donc la fascisation, elle passe par là. C'est-à-dire qu'elle passe pas seulement par les partis proprement fascistes ou par les partis d'extrême droite. C'est une des choses sur lesquelles j'essaye d'insister beaucoup dans le livre. C'est-à-dire que si on veut comprendre la montée du fascisme et la fascisation, on ne peut pas s'en tenir à une analyse des forces d'extrême droite. Il faut faire une analyse du capitalisme, il faut faire une analyse des forces politiques traditionnelles, il faut faire une analyse des médias traditionnels, il faut faire une analyse du néolibéralisme en tant qu'il met en concurrence les populations, il met en concurrence les différents... il intensifie toutes les concurrences entre les travailleurs et les travailleuses. En tant qu'il déstabilise aussi les couches moyennes, les couches petites bourgeoises, etc., et que d'une certaine manière il crée une forme de peur du déclassement, et de la promiscuité avec les immigrés, avec ceux d'en dessous de nous en quelque sorte, et donc la fascisation elle passe par tout ça en quelque sorte. Et donc le bouquin c'est une sorte de tentative d'analyse un peu globale qui n'est ni une analyse de l'électorat du Front National, même s'il faut faire aussi cette analyse, qui n'est ni une simple analyse de la politique des classes dominantes, qui cherche à articuler tous ces éléments pour comprendre pourquoi on en est arrivé là en quelque sorte,
sachant que on sent bien que ces deux forces s'articulent aujourd'hui.
Bien sûr.
Très bien.
Vous voulez dire entre l'extrême droite et le reste du...
Oui,
oui bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. C'est que le mécano... Est, enfin, on voit bien comment la dynamique évolue, y compris, par exemple, même là, dans les 15 dernières années, il y a eu des... J'étends dans le livre une forme de périodisation. Il y a eu le moment, le premier moment, quand Marine Le Pen arrive à la tête du Front National, où elle cherche d'abord à reconquérir l'électorat du FN, que le FN avait perdu au profit de Sarkozy. Bon, en partie. Ensuite, elle cherche à accroître son électorat par une politique sociale, antilibérale, etc. Et c'est tout le moment Philippot, en quelque sorte. Et ce qu'elle va réussir à faire, notamment dans des régions comme le Nord-Pas-de-Calais, dans l'Est de la France, la Lorraine, etc., ou l'ex-Lorraine sidérurgique, etc. Et puis, dans la période qui est la période qu'on pourrait dire de montée vers le pouvoir, elle se débarrasse d'une partie de ce programme social, et c'est la montée de Bardella. Le discours de Bardella est un discours très droite, très assez traditionnel, pro-capital, etc. L'éloge des grands patrons qu'il a fait suite aux déclarations de Bernard Arnault. Voilà, et donc là, l'idée, c'est finir le processus par une adhésion, en tout cas par la séduction des couches traditionnellement à droite et des patrons, de manière à sécuriser une éventuelle expérience de pouvoir et faire en sorte que les employeurs, les patrons, ne soient pas hostiles au RN quand il parviendra au pouvoir. Parce que là, ils sont vraiment dans l'idée qu'ils vont parvenir au pouvoir. Évidemment, ce sera dans une alliance avec des pans entiers de la droite, comme ça a toujours été le cas pour les expériences fascistes, que ce soit les gouvernements Mussolini ou Hitler. C'était des gouvernements d'alliance entre droite et extrême droite, dans lesquels même la droite était majoritaire en termes de portefeuille ministériel. Donc c'est ça et d'ailleurs en Europe, c'est ça qu'on voit. En Italie, aux Pays-Bas, en Finlande, en Suède, c'est des coalitions droite-extrême droite. En Italie, c'est l'extrême droite qui est la force dominante. En France, ce qui se présage bientôt, c'est une coalition droite-extrême droite dans laquelle le RN sera la force dominante, si du moins on ne les arrête pas.
Alors, on va peut-être conclure là-dessus. Est-ce que l'ascension est résistible ? Est-ce qu'on peut arrêter ces gens-là ou pas, quoi ?
J'ai tendance à avoir une réponse volontariste là-dessus. C'est que elle n'est pas inéluctable. Évidemment, rétrospectivement, on peut toujours se dire, y compris en regardant l'Allemagne des années 20-30 ou l'Italie du début des années 20, peut-être à un certain point, on avait atteint le point de non-retour. Mais ça, d'une certaine manière, on ne le sait qu'après la bataille. Donc pour nous, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de se demander est-ce qu'on a atteint le point de non-retour ou pas. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait nous pour effectivement enrayer la dynamique. Alors moi, j'aime bien cette situation de Brecht qui prélève pour un certain volontarisme. Ceux qui luttent peuvent perdre, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. En quelque sorte. Donc nous, on a l'impératif de la lutte. La question pour nous, c'est plutôt la question stratégique. C'est comment on emploie nos forces, qu'est-ce qu'on fait en quelque sorte, quelles alliances on peut tisser aussi pour empêcher les fascistes d'arriver au pouvoir. Alors, je note juste sur cette idée d'inéluctabilité, même d'arriver au pouvoir par la voie institutionnelle, le Front National, enfin le Rassemblement National, était annoncé gagnant aux dernières élections anticipées par tous les sondages. Ils ont fini par perdre. Ce qui montre bien que c'est pas si simple, y compris pour eux, d'arriver au pouvoir par la voie électorale. Ils n'ont pas encore, à ce stade, parti gagné. Ça veut pas dire que pour nous, à gauche, la seule voie de sortie soit la voie électorale. Je pense qu'on peut difficilement l'esquiver, mais ça fait sans doute divergence entre nous. Mais en tout cas, ce qui fait pas, à mon avis, divergence entre nous, c'est le fait que sans des luttes populaires massives, il ne sera pas possible de stopper l'ascension vers le pouvoir des fascistes. C'est-à-dire qu'en gros, la question de l'articulation avec la scène électorale, c'est un autre problème, mais la force du mouvement ouvrier, des mouvements d'émancipation et de la gauche pas vis-à-vis de la droite et de l'extrême droite, c'est son implantation populaire, c'est le fait de pouvoir mobiliser dans la rue, y compris beaucoup plus que l'extrême droite. Hein. Je disais, on n'est pas dans une période de grande mobilisation, mais il y a quand même eu des millions de gens dans la rue contre la réforme des retraites. Il y a eu de très nombreuses personnes dans la rue contre les crimes racistes de la police à l'été 2020. Il y a eu des grandes mobilisations autour des Gilets jaunes, des grandes mobilisations écolo contre des grands projets inutiles. Donc, on ne peut pas dire, en France notamment, qu'il n'y a pas de conflictualité, qu'il n'y a pas de mouvement, de mobilisation féministe, antiraciste, syndicale, écolo.
Il faudrait que tout ça se fédère un petit peu aussi.
Il faut évidemment que ça se fédère. Et je pense que l'antifascisme, justement, est peut-être une forme de ciment, en quelque sorte.
Radio Libertaire, 89.4, les chroniques syndicales. On a un petit peu coupé la fin du propos d'Hugo Paletta, parce que nous avons des invités autour du micro. On a Julien, que vous ne connaissez pas, qui est à l'OIP, donc il va nous dire un peu ce qu'il en est. Et puis, bien sûr, il y a Loïc, donc, qui est avocat au barreau de Bobigny, je crois.
Bobigny,
hein,
bonjour.
Pénaliste.
Oui.
Voilà, vous nous faites de la peine à liste. C'est mauvais, ça va être très mauvais. On va aujourd'hui évoquer les prisons et éventuellement les droits ou les non-droits des gens qui sont sous main de justice, comme vous dites, je crois, si vous dites ça comme ça.
Oui, qui sont détenus.
Voilà. Et on va commencer par évoquer dossier que l'on entend quelquefois même sur des ondes qui sont pas forcément des ondes amies. C'est la question de la surpopulation où effectivement il y a des conditions d'incarcération aujourd'hui qui sont absolument épouvantables. Aussi bien du point de vue des gens qui couchent par terre que de la non-propreté des locaux, pour pas dire des locaux qui sont indignes. Donc, Julien, tu nous dis un peu qui tu es, et puis tu nous dis un petit mot sur l'OIP, parce qu'il n'est pas dit que tous les auditeurs et toutes les auditrices de Radio Libertaire connaissent l'OIP.
Oui, tout à fait. Eh ben, bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Donc, c'est Julien, effectivement, Fischmeister, qui vous parle. Je suis permanent à l'OIP, c'est-à-dire que moi, je travaille sur les questions plutôt d'analyse des politiques pénales, des politiques carcérales à l'OIP. Et de plaidoyer aussi, même si le terme ne veut pas forcément dire grand-chose, mais en tout cas, En fait, l'OIP travaille de manière assez pluridisciplinaire sur la mise en lumière de la réalité des conditions de détention en France pour le recours à, un moindre recours à l'emprisonnement en règle générale. Quelque chose sur lequel on aura peut-être l'occasion de revenir aussi. Donc, de manière pluridisciplinaire, pourquoi ? Parce que l'OIP fait du contentieux pénitentiaire auprès des juridictions administratives françaises, voire européennes aussi.
Ce qui veut dire contentieux ?
Du contentieux, c'est-à-dire l'idée, c'est de pointer des dysfonctionnements dans un établissement. De les porter devant le juge de manière à ce que des conséquences juridiques soient prises sur un état de délabrement structurel dans un établissement, sur toute une série de... Voilà. Donc l'OIP a permis la condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme de différents établissements, mais surtout par les juridictions nationales, par les juges administratifs, de une trentaine, quarantaine d'établissements français. Quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'est le volet contentieux. L'OIP a tout un travail d'enquête depuis toujours, qui est un petit peu le poumon, si vous voulez, de l'association, c'est-à-dire en fait faire remonter des informations depuis les prisons françaises par le biais du téléphone, par le biais des courriers, par le biais de différentes discussions et interactions avec des personnels aussi de toute cette machine carcérale, de sorte à pouvoir enquêter sur ce qui se passe à l'intérieur, le documenter, porter aussi certains dysfonctionnements devant l'administration, de sorte à trouver des solutions de sortie de crise, quoi. Et voilà, et documenter tout ça au travers de rapports, au travers de notre revue qui s'appelle Dedans Dehors, qui sort tous les 3 mois. Voilà.
Voilà, et c'est une association qui date de 1980, dans ces eaux-là, quoi.
Non, qui date de 80. Alors, l'OIP, en fait, oui, c'est une précision importante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'OIP, c'est-à-dire que l'Observatoire international des prisons n'existe plus depuis 99. C'était effectivement la volonté première, c'était de créer vraiment un réseau international d'observateurs de ce qui se passe dans les différentes prisons du monde. Mais l'Observatoire, en tant qu'internationaliste, si vous voulez, a périclité très rapidement. Et nous, en fait, on n'est pas tant l'OIP que la section française d'une OIP qui n'existe plus.
Voilà.
Voilà. Il y a un OIP belge, il y a un OIP français, mais il n'y a pas d'autres OIP, si ce n'est des réminiscences en Argentine d'une section aussi. Au Canada de mémoire, mais il y a pas, voilà, on n'a pas de fédération internationale en tant que telle, quoi.
Voilà pour l'OIP. Donc surpopulation, je pense que c'est un des dossiers qui vous tient à cœur.
Oui. Alors c'est effectivement c'est un terme qui est parlant, en fait. Effectivement, la surpopulation, tout le monde voit à peu près de quoi ça en retourne. On essaye aussi de plus en plus, en fait, de ne pas seulement mettre la focale sur la surpopulation, mais sur la surincarcération, en fait. C'est-à-dire tous ces procédés pénaux qui créent, en fait, des incarcérations en masse, exponentielles ces dernières années, mais en fait, avec une croissance très nette de ces 40 dernières années, hein, une population carcérale.
C'est-à-dire que les juges, de plus en plus,
exactement,
se condamnent à la prison ferme.
Exactement, voilà. C'est ça. C'est comment, effectivement, le recours à l'emprisonnement est une solution qui s'impose de manière toujours plus évidente dans les juges. Alors, l'idée, c'est pas forcément de dire que les juges sont individuellement responsable en fait de cette situation, c'est aussi l'effet, et avant tout l'effet de politique pénale en fait,
oui, qui se tourne. Formatage aussi.
De formatage d'un esprit du temps aussi, d'un esprit du temps qui est toujours plus répressif en fait. Hein, et puis les magistrats s'inscrivent dans cette mouvance-là pour différentes raisons, mais c'est, voilà, c'est un peu le ton est donné à la répression. Quoi. C'est vraiment ça l'idée. Et donc ça, quand on analyse juridiquement en fait l'effet des réformes de ces dernières décennies, on voit bien que la prison est toujours plus au cœur en fait finalement de l'économie de la peine, de la rationalité pénale, etc. Quoi. Oui. Donc voilà. Donc on analyse ça aussi sous le prisme de la surpopulation, parce que ça c'est quelque chose de très concret. C'est-à-dire qu'on peut chiffrer la surpopulation, enfin le taux d'incarcération d'un établissement qui bien souvent en fait dépasse les 100%. Et je pourrais y revenir juste après parce que c'est important de savoir de quoi on parle quand on parle de surpopulation. Mais regardez aussi beaucoup quelles sont les politiques pénales qui nous amènent à cette situation-là, quoi. Voilà. Alors peut-être juste cette petite précision, effectivement, quand on parle de surpopulation, on parle de quoi ? On parle des maisons d'arrêt. Ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête. C'est-à-dire que seules les maisons d'arrêt sont concernées par ce phénomène de surpopulation.
Oui. Les gens distinguent pas bien.
Eh ben voilà, c'est pour ça, effectivement.
Je sais bien, c'est pour ça. Ouais, tout à fait. Centrale, choses comme ça.
Voilà, c'est ça. Ouais. Effectivement, peut-être pour classifier en deux parties, on a les établissements pour peine, donc qui sont des établissements dans lesquels les personnes vont purger une peine,
souvent après condamnation.
Pour des temps relativement longs. Et puis les maisons d'arrêt, qui sont là, les établissements où sont placées les personnes en détention provisoire, donc en attente de leur jugement, et les personnes qui sont condamnées à des courtes peines, théoriquement jusqu'à 2 ans, en pratique bien plus. Et donc c'est seulement les maisons d'arrêt pour lesquelles on applique une exception au principe d'encellulement individuel. C'est-à-dire que le principe d'encellulement individuel, qui vise à dire qu'une cellule doit accueillir seulement un individu, ne s'applique qu'en établissement pour peine. Il ne s'applique pas en maison d'arrêt, c'est-à-dire qu'il y a un moratoire tous les 5 ans qui, depuis plus de 100 ans, depuis quasiment 150 ans en réalité, qui permet du coup de faire exception à ce principe d'encellulement individuel. Donc quand on parle de surpopulation, c'est seulement les maisons d'arrêt qui sont concernées, et les maisons d'arrêt, c'est 7 personnes sur 10 qui y sont détenues. C'est 70% de la population détenue qui est en maison d'arrêt. Voilà. Et donc là, on a effectivement un taux moyen d'occupation dans ces maisons d'arrêt qui est aujourd'hui à 165%.
D'accord, pour 10 places, il y a 16 prisonniers. Quoi.
Voilà, c'est ça l'idée, mais c'est une moyenne. Et en fait, cette moyenne, elle n'est pas du tout révélatrice de l'état de surencombrement vraiment excessif dans certains établissements, où parfois ça avoisine les 300%. Quoi. Il y a plus de 25 maisons d'arrêt ou quartiers maisons d'arrêt qui sont à plus de 200%. Enfin, voilà. Donc on a vraiment des lieux où c'est un entassement extrêmement fort, quoi, avec voilà, 2, voire souvent 3 personnes en cellule, des personnes qui sont réduites à dormir sur un matelas au sol, au contact de la poussière, au contact des nuisibles, de manière extrêmement déshumanisante, bien évidemment, au-delà de la déshumanisation de la prison en tant que telle, mais là c'est vraiment un grand plus qui est franchi, des capacités électriques qui sont pas du tout adaptées en fait à ce surnombre en cellule, des moisissures extrêmement importantes générées par simplement voilà la présence de 3 personnes pour des le manque d'intimité totale qui a plein de répercussions en fait sur la dignité de la personne, sur son estime,
parce qu'une cellule c'est 9 mètres carrés,
c'est ça.
À 3 dans 9 mètres carrés, c'est quand même assez étroit,
c'est extrêmement exigu, tout à fait,
c'est plus qu'étroit, ouais. Bah 9 mètres carrés, c'est une petite chambre, quoi, c'est une chambre de taille modeste. Et les cellules de 9 mètres carrés, le standard, c'est la cellule de 9 mètres carrés prévue pour un détenu qui a sa petite chambre, quoi, dans laquelle il est censé passer une vingtaine d'heures par jour. Ouais, en ça. Pratique, il y a beaucoup de détenus qui passent plus de temps que ça, c'est-à-dire qu'ils ne sortent jamais de leur cellule.
La promenade n'est pas obligatoire
toujours, mais ça c'est... Alors non, elle n'est pas obligatoire, elle est toujours facultative, comme la douche, c'est facultatif, c'est possible 3 fois par semaine, mais ça reste toujours facultatif.
Et c'est le détenu qui décide, ou est-ce que c'est l'appareil de répression dans la prison qui dit aujourd'hui, les douches sont ouvertes, et aujourd'hui, on se promène.
Ah non, les détenus, ils ont accès aux douches 3 fois par semaine. Ça, c'est un droit. Mais il y a des détenus qui ne sortent pas de leur cellule pour diverses raisons. On pourra en reparler en expliquant ce que c'est que la réalité des conditions de détention et de certains détenus, de la plupart des détenus. Mais pour finir sur les 9 mètres carrés, c'est le bien individuel 9 mètres carrés. Il faut bien comprendre ce que ça implique. C'est-à-dire que quand on a 3 personnes dans une cellule individuelle, c'est-à-dire qu'à la place du lit simple, on a mis un lit superposé. Et pour mettre le troisième, on met un matelas. Alors, 9 mètres carrés, c'est la surface au sol, avec le toilette dans la cellule, qui souvent n'a pas de séparation, ou une séparation tout à fait symbolique. Donc on met 3 personnes dans 9 mètres carrés, où il y a les toilettes, mais il y a aussi le mobilier. C'est-à-dire qu'à cette surface au sol de 9 mètres carrés, il faut retrancher la place du lit superposé, la place de la petite tablette, la place de la chaise. Alors souvent, il n'y a qu'une chaise ou deux chaises, parce qu'on ne peut pas mettre 3 chaises. Et puis la place du petit mobilier pour que chacun puisse ranger ses affaires, etc. Quand on est 3 là-dedans, il y a des sacs, par terre, parce qu'on ne peut pas mettre les affaires dans les étagères. Le matelas, il est au sol. Une fois qu'il y a le matelas au sol pour que le troisième puisse dormir, on ne circule plus dans la cellule. Et les gens ne peuvent plus circuler dans la cellule. Alors, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, on se plaignent certains de mes clients quand ils m'expliquent la situation. Quand le matelas est au sol, qu'il faut ouvrir la fenêtre, qu'il y en a un qui est en train de dormir, qu'est-ce qu'on fait? On lui marche dessus, on monte sur son matelas, on met les pieds sur son matelas pour aller ouvrir la fenêtre. D'ailleurs, ouvrir la fenêtre, quand il y en a un qui est à côté du plafond et l'autre qui est par terre, qui décide de quelle température on va maintenir dans la cellule? Il y en a un qui crève de chaud et l'autre qui a froid parce qu'il a un courant d'air sous la porte.
Bien sûr. Ça crée des tensions énormes.
On pourrait multiplier les descriptions, mais tout ça pour dire que c'est très difficile quand on parle de surpopulation carcérale. Ça a un côté un petit peu technique. On voit ça d'un point de vue un peu lointain, mais c'est très difficile d'imaginer ce que c'est que la réalité des conditions de détention. En vrai, c'est assez épouvantable et c'est très difficile, même quand on est avocat. Moi, je vais régulièrement, évidemment, en détention, mais je vais au parloir. Et donc, les gens m'expliquent ou m'expliquent pas, d'ailleurs, parce qu'il y a une forme de pudeur ou une forme d'acceptation. C'est-à-dire que les gens finissent par penser que c'est la normalité des conditions de détention comme ça. Donc, ils en parlent pas nécessairement. Mais quand il y en a certains qui veulent en parler ou qui veulent s'en plaindre, c'est très difficile d'envisager ce qu'ils vivent. Ne serait-ce que rester dans une pièce pendant 20h ou 22h, parce que la surpopulation carcérale, elle fait qu'il n'y a pas d'activité pour tout le monde. Donc on reste en cellule, on va en promenade, parce que l'administration pénitentiaire ne peut pas assurer davantage, tout simplement. Il faut s'imaginer rester 20h ou 22h par jour dans la cellule, pour ceux qui sortent, parce que je disais qu'il y en avait qui ne sortent pas. La surpopulation carcérale, ça fait aussi que ça devient une cocotte minute, une prison. Ça devient un environnement violent, invivable, où les gens, beaucoup de gens se sentent en danger. Donc, pour une raison ou pour une autre, soit parce qu'ils n'ont pas le moral, soit parce qu'ils sont menacés dehors, soit parce qu'ils se sont déjà fait casser la gueule en cours de promenade et qu'ils n'ont plus envie d'y sortir, ils finissent par plus sortir de leur cellule. Donc, on arrive dans des situations où, il m'est arrivé déjà, je défends encore des gens qui me disent, je vais les voir, j'ai dit, ça y est, vous ressortez de la cellule. Ils me disent, là, c'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'ils restent tout le temps en cellule. Et s'ils n'ont pas la possibilité de travailler, ils restent tout le temps en cellule.
Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Je la mettais dans ma poche et là elle broyait du noir. Elle jouait avec les croches et s'inventait des histoires.
Daniel Messia de la main gauche. Vous êtes à l'écoute des chroniques syndicales de Radio Libertaire 89.4.
Avec Julien de l'OIP et puis Loïc qui est avocat. On a évoqué donc la surpopulation, mais avant de parler de la prison, ça sert à quoi, ou éventuellement ça ne sert à rien, c'est les super prisons que a relancé Darmanin, qui me rappelle, moi, qui quelques années de plus que vous, les QHS qui ont été largement dénoncés par tous les militants anticarcéraux des années 70-80, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est à la fois effectivement une réactivation de ces quartiers-là. Il faut aussi avoir en tête qu'il s'est passé un certain nombre d'années pour que l'opinion publique en fait oublie pourquoi est-ce qu'on avait supprimé ces quartiers-là, quoi. Effectivement, toi, tu as cette mémoire et tu portes cette mémoire de la mobilisation de la société civile contre ces quartiers à l'époque, mais je pense que t'es pas majoritaire, quoi, tu vois. Donc voilà, il y a quelque chose un peu l'éternel retour, hein, tu vois, de trucs qui ont été éprouvés, qui ne fonctionnaient pas, et voilà. Mais aussi beaucoup de l'aspiration du régime anti-mafia italien, en fait. Et Gérald Darmanin s'en était vraiment targué, et on faisait vraiment un élément de communication importante en disant on va s'inspirer de ce que fait l'Italie vis-à-vis des mafieux. Le modèle de ça s'appelle Carcere Duro, excusez-moi de l'accent, qui est voilà.
Carcere Duro, ça veut dire les conditions dures dans l'emprisonnement.
Ouais, c'est ça. Duro, c'est.
Je pensais que la traduction n'est pas très bonne. Non.
Mais voilà, donc c'est un peu cette double inspiration, effectivement. Donc le quartier là, concrètement, le premier quartier qui a été créé, il est à Vendin-le-Vielle, qui est un établissement effectivement qui n'est pas une maison d'arrêt que je décrivais plus tôt, qui est un établissement pour peine et même pour longue peine. Qui est voilà un régime d'exception au sein de différents régimes d'exception, parce que faut s'imaginer quand même que le droit pénitentiaire, on a un droit pénitentiaire depuis de nombreuses années, va vers toujours plus de différenciation des parcours, des profils, des régimes de détention, une catégorisation croissante. Et donc là on est dans un nouveau régime qui s'additionne à celui en vigueur pour les personnes dites radicalisées ou en voie de radicalisation, pour les personnes considérées comme dangereuse avec un statut de ce qu'on appelle le statut DPS, détenu particulièrement signalé, pour les personnes à l'isolement. Enfin, il y a toute une série de régimes et on ajoute un régime, quoi. Bon. On ajoute un régime qui est extrêmement, extrêmement répressif, qui est certainement le plus répressif, qui est le régime de l'isolement avec davantage de restrictions. Donc des restrictions téléphoniques, une écoute de toutes les conversations, excepté celles évidemment avec la défense, avec l'avocat et avec le contrôleur général des lieux de privation de liberté et le défenseur des droits. Sinon, toutes les conversations sont écoutées et scrutées, quoi. C'est 2 fois 2 heures de communication par semaine avec la famille ou avec les proches. Donc écoutées et sur des plages horaires que le détenu ne choisit pas. Donc il y a 2 heures garanties le samedi de sorte à pouvoir discuter avec les enfants, mais les 2 autres heures sont dans la semaine à un moment que le détenu ne choisit pas. Donc ça peut tomber en même temps que sa promenade, ça peut tomber bien évidemment en même temps que l'école des enfants, ça peut tomber en même temps que le travail de la conjointe. Je dis conjointe parce que c'est que des hommes pour l'instant dans ce quartier-là. Donc il y en a un à Vendin, il y en aura prochainement un à Condé-sur-Sarthe et à terme un en Guyane. Et puis certainement que d'autres quartiers seront créés, quoi. Voilà. Donc on sait d'avance en fait que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. On sait d'avance que c'est quelque chose qui va créer une cocotte, hein, qui va voilà, une cocotte minute en détention, que c'est extrêmement déshumanisant, que ça catégorise toujours plus les gens en fait. C'est-à-dire que ça leur met une étiquette de personnes dangereuses, de personnes indésirables, et donc voilà, ça renforce la personne dans la stigmatisation qu'elle peut avoir d'elle-même en fait. Ça voilà. Donc c'est quelque chose c'est une chronique d'une mort annoncée en fait, d'un échec annoncé si vous voulez, encore une fois de voilà.
Vous voulez dire un mot, Loïc, non ?
Sur ce sujet-là, oui, c'est encore une fois un affichage purement politique, parce que si on raisonne de manière très pragmatique, on peut se dire si on place un trafiquant de stupéfiants en détention, et d'ailleurs je crois qu'il y a des gens qui sont en détention provisoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore été condamné et qui pourtant sont mis dans ce régime-là, alors qu'ils sont présumés innocents, quoi. Donc, cette liste des 100 narcotrafiquants les plus dangereux, elle a été créée de manière totalement arbitraire, et d'ailleurs selon le ministère de l'Intérieur c'est pas une liste, parce qu'ils avaient créé une liste et c'est interdit de ficher des gens sur des critères qui sont pas prévus. Donc bref, tout ça c'est un affichage politique, mais si on réagit de manière très pragmatique, on peut se dire, mais si on veut éviter que les gens ils organisent les trafics d'une torsion, ce qui peut être un objectif tout à fait entendable, mais c'est parfaitement entendable, la solution c'est peut-être d'avoir des maisons d'arrêt avec des conditions de fonctionnement normales, avec des surveillants qui puissent vraiment surveiller, des surveillants qui puissent voilà, contrôler ce qui se passe dans les cellules, faire en sorte que les gens n'aient pas quatre téléphones dans leurs cellules. Mais ce qui fait que ce travail n'est pas fait, c'est que les conditions de détention sont telles que le personnel ne peut pas le faire. C'est ça la réalité. Donc en vrai, on dit les gens sont très dangereux, c'est pour ça qu'on va les mettre dans un établissement spécial, etc. Alors les gens sont peut-être très dangereux, j'en sais rien, mais surtout le problème c'est qu'ils sont incarcérés dans des conditions où on ne peut pas les surveiller correctement et faire en sorte que les conditions de travail de l'administration pénitentiaire permettent de parer aux risques auxquels on veut parer. C'est aussi bête que ça. Donc l'histoire des 100 narcotrafiquants les plus dangereux, c'est un très bel affichage politique. C'est surtout une démonstration de l'état déplorable du système pénitentiaire. Ça, c'est évidemment pas présenté comme ça.
Donc, pour revenir à la question qu'on évoquait tout à l'heure, donc à quoi ça sert d'enfermer les gens et d'en enfermer de plus en plus? Et plus on construit de prisons, plus il y a de gens enfermés, et plus il y a de gens enfermés, plus il faut construire de prisons. Enfin, une espèce de cercle absolument vicieux que l'on connaît depuis, je sais pas, 10 ou 15 ans, quoi, maintenant, peut-être davantage d'ailleurs.
Bah, à quoi ça sert d'enfermer des gens? Ça, c'est une question plutôt philosophique, quoi, qu'on pourrait aborder pendant de longues heures. Enfin, je pense qu'il y a une aspiration sociale de tout temps, en fait, de vouloir infliger de la souffrance aux personnes qui transgressent un interdit. Bon, c'est quelque chose qui remonte très très loin. Ça sert à quoi si on prend d'un point de vue un petit peu prospectif? Ça sert à rien, en fait, en tout cas d'enfermer des gens dans ces conditions là et surtout de qui on parle, c'est-à-dire que quand on parle d'abolition des prisons, par exemple, la question qui revient en permanence sur le tapis, c'est oui, mais qu'est-ce qu'on fait des personnes effectivement dangereuses? Qu'est-ce qu'on fait des pédophiles? Qu'est-ce qu'on fait des violeurs, etc.? Et c'est là où effectivement on peut se poser la question. La question n'est pas tant celle de savoir qu'est-ce qu'on fait des personnes dangereuses, si tant est qu'on puisse objectiver cette question de la dangerosité. Non, on peut pas.
On peut imaginer 90% des détenus.
Et voilà. Sont pas dangereux. Exactement, voilà. C'est ça. En fait, c'est plutôt qu'est-ce qu'on pourrait réinventer comme système de punition qui se fonde sur l'immense majorité des personnes détenues qui ne représentent aucune forme de dangerosité. Et ça, ça se lit et ça s'observe d'un point de vue statistique. Ça veut dire que quand on regarde le quantum de la peine, en fait, pour lesquelles l'immense majorité des personnes sont condamnées, on voit que c'est des peines globalement très courtes. C'est-à-dire que la prison, c'est un espace où se croisent des gens pour des courtes durées. Il y a 90% pardon, des personnes qui arrivent en détention qui vont y rester moins de 2 ans. Ça, c'est un fait établi. C'est-à-dire qu'on regarde vraiment les statistiques de l'administration pénitentiaire qui sont publiées tous les 3 mois. Ça, on le voit. Ça veut dire que 90% des personnes qui rentrent en détention avec une condamnation y resteront moins de 2 ans. Okay, si on descend à 1 an, c'est 73%. Donc l'immense majorité des personnes n'ont pas été condamnées à des longues peines. Et on pourrait tout à fait réfléchir, en fait, à si on veut les punir autrement. Donc on parlait effectivement pendant l'intermède musical du bracelet électronique. Il y a d'autres régimes alternatifs de détention, comme le placement à l'extérieur. Il y a d'autres modes de punition, en fait, comme le travail d'intérêt général. On peut aussi en inventer d'autres si on veut vraiment satisfaire à ce besoin de punitif. Il y a aussi différentes sociétés qui réfléchissent à des organisations sans punition, où finalement la survenance d'une infraction, la survenance d'un comportement transgressif est plutôt abordée comme une carence du groupe social qui entoure l'individu, plutôt que comme, si vous voulez, une responsabilité individuelle de la personne qui a transgressé. Donc il y a tout un travail, en fait, d'accompagnement visant à pacifier les conflits, plutôt qu'à punir et à écarter du reste de la société, dans des conditions qui, évidemment, vont faire que la personne ressortira beaucoup plus... pire qu'elle y est rentrée, quoi.
Oui, parce qu'apparemment, c'est un milieu qui engendre de la violence. Ah,
bah, complètement. C'est
effectivement... Vu les conditions de détention actuelles, mais ça dure déjà depuis un certain temps, oui, on se pose la question vraiment de l'utilité sociale, puisque le discours qui est porté par ce système répressif, avec modalité centrale de la peine, la prison, c'est de dire bah, on va envoyer les gens en prison, du coup, déjà, on va être tranquille pendant qu'ils sont là-bas. Premier point, avec le temps d'incarcération qui vient d'être souligné par Julien. Donc on est tranquille pendant un tout petit temps, hein, mais les gens ressortent de prison.
Bien sûr.
Les gens ressortent de prison. Et si on fait souffrir les gens comme on les fait souffrir en prison, avec aucun moyen de l'administration pénitentiaire pour les aider à s'améliorer, à s'amender, mais qu'au contraire, ils sont baignés dans un milieu de misère, de violence, parce qu'il faut imaginer la violence des maisons d'arrêt quand on a 200% et quand on a les conditions qu'on a évoquées.
Oui, il y a à la fois la violence symbolique du fait de l'enfermement lui-même dans de mauvaises conditions.
Bah, la violence institutionnelle crée de la violence, de la violence au sens propre du terme.
Ouais. Entre détenus éventuellement.
Entre détenus éventuellement. Voilà, il y a une violence qui est très très prégnante en détention, une misère, des conditions de vie qui sont désastreuses et pas de moyens pour aider les gens à s'améliorer, à travailler, à faire des formations, etc. Sur les courtes peines, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, quand les gens sortent, ils rentrent en prison souvent dans une situation de précarité sociale, peut-être de fragilité psychologique.
Quand
ils sortent, concrètement, pour le dire de manière très courte, les gens sortent plus dangereux de prison que quand ils y sont entrés.
Oui. Quand on regarde aussi la sociologie des gens détenus, c'est beaucoup de gens des classes populaires, voire ce qu'on appellerait, sans vouloir que ce soit péjoratif, le lumpen prolétariat. Il y a vraiment la misère engendre l'emprisonnement d'une certaine manière.
Oui, la prison, c'est un milieu de misère. Et des gens sont souvent dans des difficultés sociales, existentielles, quand ils rentrent en détention. Et quand on sort de 6 mois d'incarcération, quand on sort, on est encore plus démunis. C'est ça la réalité. Et quand on est plus démunis, ça crée une situation qui est nécessairement plus criminogène. Donc il faut toujours avoir ça en tête quand on entend les discours répressifs qu'on entend en ce moment.
Ouais. Ce qu'on entend aussi, c'est qu'il y a éventuellement beaucoup de gens qui sont en souffrance psychique et que les prisons sont devenues des espèces d'asile à l'ancienne, où on enferme les gens sans soins, quoi.
Alors ça, c'est très prégnant. Alors moi, je parle, Julien a certainement quelque chose à dire là-dessus, mais moi, de mon expérience d'avocat, à Bobigny, j'ai défendu déjà un certain nombre de gens qui sont vraiment des gens qui sont malades, qui ont des maladies psychiatriques. Ouais, et ce dont on se rend compte de manière très, très, très concrète, très empirique, c'est que les gens aujourd'hui qui ont des maladies psychiatriques... c'est aussi une faillite du service public qui fait que les gens ne sont plus pris en charge. On ne prend plus en charge les fous. Alors je suis pas un spécialiste de la psychiatrie, mais moi ce que j'ai constaté de manière très concrète, encore une fois, c'est que les gens qui ont des vraies maladies psychiatriques, ils vont à l'hôpital, mais on ne les garde plus à l'hôpital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des traitements médicamenteux qui fonctionnent. On leur donne des médicaments et on les sort de l'hôpital. Et les gens ne sont plus suivis. Si vous demandez à un schizophrène de gentiment prendre son traitement, des fois ça marche, mais des fois il n'a pas envie de prendre son traitement. Et puis parce qu'il est schizophrène et il n'est pas capable de se prendre en charge. Donc on a ce que les psychiatres appellent stabiliser les gens. On les met dehors et puis souvent on les retrouve en prison. Donc il y a des statistiques certainement qui montrent, moi je l'ai constaté, mais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes psychiatriques en prison.
Voilà. Et puis ceux qui ne sont pas en prison, pour les gens qui ont des maladies psychiatriques lourdes, ils sont dans la rue, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville est devenue une espèce d'hôpital ouvert. Ouais.
Et les conditions de détention des gens qui sont alors des gens ordinaires, qui n'ont pas de problème psychiatrique, c'est déjà, on l'a rapidement évoqué, mais c'est déjà terrible. Mais les gens qui ont des problèmes psychiatriques, c'est absolument épouvantable.
Bien sûr.
Bien
sûr. Et puis la prison renforce aussi effectivement ces vulnérabilités, quoi. C'est-à-dire que on peut rentrer avec un état dépressif en détention et se retrouver à l'issue de 6 mois, du coup, dans un état catastrophique du fait effectivement d'un manque de soins, parfois d'un manque de traitement. Enfin, il y a des établissements dans lesquels il y a un psy qui passe tous les une fois par semaine pour un nombre de détenus qu'il n'est absolument pas en mesure de gérer. Les délais d'attente sont très très longs et pour l'immense majorité, je le répète, de personnes détenues, en fait la durée des peines fait qu'en fait elles n'ont absolument pas le temps en fait d'assurer un quelconque suivi, ne serait-ce que une confrontation avec un psy. Donc voilà, on les laisse effectivement livrées à elles-mêmes avec leur pathologie. Donc sur les statistiques, c'est compliqué de dire en fait ce qu'on sait, parce qu'il y a eu beaucoup d'études ces dernières années qui se sont intéressées à l'état mental des détenus à l'entrée en détention, pendant la détention, à la sortie de détention aussi. Le constat un petit peu fort qui ressort de tout ça, c'est effectivement la très très forte prégnance en fait prévalence disons de maladies psychiatriques. On a telle étude qui dit que 40% des détenus est atteint d'un syndrome dépressif grave. D'autres qui vont dire, voilà, non, ça aussi, enfin ça ramène toujours, enfin, effectivement, une très très forte prévalence en fait de troubles psychiatriques qui n'est pas prise en charge en fait. Quoi. Et encore une fois, pourquoi elle n'est pas prise en charge? Parce que, alors pour différentes raisons, mais notamment, il faut avoir en tête que le nombre de médecins, le nombre de psys, etc., affectés à un établissement est calculé toujours sur la capacité théorique des établissements et donc opérationnelle, si vous voulez, celle qui est vraiment prévue dans le cahier des charges des établissements. Quoi. En pratique, comme il y a souvent deux fois plus de détenus que de nombre de places, on a voilà, des médecins qui sont encore plus surchargés et encore plus en incapacité d'assurer leur travail. Quoi. Bon. Voilà. Après, sur la prison, effectivement, comme réceptacle de la misère, ça, c'est des constats que la sociologie du droit a posé depuis très très longtemps. Quoi. On a des études des années 70 déjà qui montraient comment la justice, en fait, assure ce mécanisme de filtrage un petit peu de toute cette manne de déviants, etc. Et qu'à l'arrivée, en réalité, voilà, pour une série de raisons plutôt qui touchent plutôt à l'organisation et au fonctionnement de la justice pénale, on se retrouve avec des prisons remplies de précaires, d'ouvriers, de marginaux, d'issus de gens issus de l'immigration ou immigrés elles-mêmes, de chômeurs. Enfin voilà, c'est des précaires, c'est des gens qui souffrent pour une raison x ou y, mais c'est des gens qui souffrent quoi. Voilà, des gens avec des carences affectives énormes, des gens avec des parcours de rue, des gens avec des abandons dans l'enfance et des prises en charge par l'aide sociale à l'enfance, anciennement la DAS. Enfin bon, des gens qui souffrent quoi.
Oui, en parlant des problèmes psychiatriques en prison, j'ai en tête des exemples tirés de mon expérience professionnelle qui illustrent bien la conjonction entre situation psychiatrique, psychologique des détenus et surpopulation carcérale. Exemple, j'ai un client qui est, je suis commis d'office pour une personne qui est lourdement schizophrène. Très lourdement schizophrène, parfaitement diagnostiqué. Il va une nouvelle fois en détention. Il est mis dans une cellule de deux, mais du coup avec quelqu'un qui n'est pas schizophrène. Donc il y a un détenu qui se retrouve 20 heures par jour dans une cellule avec un schizophrène. Résultat, évidemment, ça se passe pas bien. C'est-à-dire que le schizophrène, lui, il voudrait être tout seul. Celui qui est en cellule avec un schizophrène, bah, il en peut plus parce que c'est insupportable. Et on se retrouve dans des situations totalement absurdes où je suis obligé de faire un recours pour conditions indignes, voilà, qui évidemment n'aboutit pas parce que c'est un recours qui ne prospère jamais. Faire pression sur l'administration pénitentiaire pour qu'il soit transféré. Et j'ai le directeur de la maison d'arrêt, c'était la maison d'arrêt de la santé en l'occurrence, qui dans le cadre de ce recours me dit, voilà, moi j'ai tant de matelas au sol, tant de cellules, je peux pas mettre les gens tout seul. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a un détenu qui n'a rien demandé, qui se retrouve en cellule avec un schizophrène, et mon client schizophrène qui voudrait être tout seul, qui se retrouve avec quelqu'un et qui finit par le taper parce qu'il en peut plus. Voilà, exemple.
Bien que je sois pas du genre chochotte à m'effrayer comme un moineau, à peine y vente, à peine y flotte, du genre à faire mon numéro, d'inquiète, voyante, extra-lucide, planté devant sa boule de cristal, je vois les ténèbres, le vide, aïe, tout s'écroule et tout va mal. J'avoue que par ces temps exaltants, ce début de millénaire embrumé, je serai, disons, pas franchement, d'un optimisme forcené, bêtement vu les demain qui se préparent, et le pauvre monde comme il va. Oui mais voilà que j'ai, c'est bizarre, comme scellé tout au fond de moi, l'espoir. L'homme est souvent pire qu'une ordure, il l'a prouvé abondamment. Cette qualité-là, c'est sûr, défie les siècles, nargue les ans. Et c'est pas le progrès, pas la bourse, tout ce qui illumine nous aujourd'hui, qui va venir freiner dans sa course l'universelle connerie. Allez demander rien que pour voir à Jenny, nous en Haïti, comment va le vent de l'histoire. Allez faire un tour à Grozny, ouais, c'est l'horreur et le foutoir. La terre qui saigne un peu partout, mais j'ai beau le voir et le savoir, je garde envers et contre tout l'espoir. Et pas besoin d'aller à Perpète pour frissonner, monter les tours. Suffit de regarder sous nos fenêtres notre pays débordant d'amour, où les riches sur leur tas d'or se marrent et gouvernent en sous-main, où les pauvres travailleront plus fort et plus longtemps pour gagner moins.
où le bonheur c'est chacun pour soi. Quand il est parmi à bien plus tard, franchement, pour en arriver là, faut être nul ou le vouloir. Ou dans les salons du profit flotte une certaine odeur de merde, où tout est fait pour qu'on l'oublie, où tout est fait pour qu'on le perde. L'espoir. L'espoir d'abord c'est dire non à ceux devant qui l'on s'incline, c'est toujours relever le front quand les autres courbent l'échine. L'espoir c'est prendre la parole sans demander la permission, et c'est danser la carmagnole sous les balcons du roi Pognon. C'est cracher au nez des crétins, ceux qui prétendent inéluctable, le ventre tordu par la faim. C'est cogner du poing sur la table, c'est montrer son cul au sinistre qui possède les continents, c'est dire leur fait à leur ministre, qu'il soit larbin ou président. L'espoir, c'est le respect toujours de tout ce qui palpite et vit. Ça vient de loin des anciens jours de la mine et du pain rassis. L'espoir, c'est l'évidence belle que l'on est là mille et cent mille, sans peur aucune de vous rebelles, et que ça n'est pas inutile. L'espoir, c'est plus fort que la mort, la fleur qui perce le goudron, le soleil qui se lèvera encore sur les fûts rouillés des canons. C'est cette flamme qui vacille, ce feu que je tiens dans ma main, fragile et fort comme ma vie, c'est tout ce qui me fait humain. L'espoir.
Frasiac, l'espoir. Vous êtes toujours à l'écoute des chroniques syndicales de Radio Libertaire 89.4.
Voilà, donc on évoque avec Julien de l'OIP et Loïc les conditions d'incarcération inutiles de beaucoup de détenus. Alors, ce que vous disiez aussi un peu hors micro, c'est que ça coûte cher, cette affaire. Hein? Et puis, alors, quelles sont les pistes, les alternatives à l'incarcération, quoi?
Ça a été chiffré, ça coûte 120 euros par jour de garder quelqu'un en maison d'arrêt. Donc ça pèse sur les finances publiques. Et puis oui,
on pourrait faire des économies sur le budget alors.
Ça c'est une piste d'économie parmi d'autres. Même si il a été envisagé de faire payer aux gens leur séjour en détention. Ouais. Alors ça dans le type idée populiste balancée comme ça, c'est pas mal. On est à un très très bon niveau.
C'est des gens précaires qu'on prend.
C'est ce qu'on vient d'expliquer. Donc ouais. Voilà, quand quelqu'un qui est rentré, une heure en maison d'arrêt, là, il comprend l'intelligence de ce type de proposition. La question qu'on se pose toujours, c'est le discours sécuritaire aujourd'hui, c'est de dire ce qu'on entend des responsables politiques, c'est il faut envoyer les gens en prison, il faut toujours les envoyer en prison et toujours les écarter et toujours les punir. Mais personne ne pose la question à quoi ça sert et pourquoi. Et ce qu'on a dit avant la pause musicale, c'est que on peut dire que les gens, ça nous coûte très cher. Et quand les gens sortent de prison, ils sont peut-être plus dangereux ou dans des situations plus difficiles.
Ceux qui avaient du boulot l'ont perdu, ceux qui avaient un appart l'ont peut-être perdu, ceux qui avaient de la famille sont peut-être fâchés. Ça a des effets sociaux catastrophiques.
Les courtes peines de prison, ça c'est un constat qui a été arrêté depuis très longtemps. Les courtes peines de prison ne protègent pas contre la récidive. Et peut-être même au contraire. La prison, c'est criminogène. Ne serait-ce que par un phénomène qui est très très bien connu, c'est l'adage, c'est la prison, l'école du crime. C'est une réalité. Les gens, ils tournent, ils ont tous commis des infractions, ils sont tous en situation précaire. D'ailleurs, pas tous, parce qu'il y en a qui sont en détention provisoire, mais il y a beaucoup de gens qui ont commis des infractions et puis ils se retrouvent entre eux, entassés les uns sur les autres, sans aucun accompagnement social, sans accès au travail, sans accès aux formations, de quoi ils parlent et de qu'est-ce qu'ils font comme projet entre eux. C'est criminogène.
Donc les alternatives qu'on pourrait imaginer pour que tous ces gens sortent et que la société ne s'en porte pas plus mal.
Alors la question des alternatives, elle est intéressante effectivement. Elle est souvent mise en avant. Il y a quelques réserves qu'il faut aussi y apporter. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène qu'on constate depuis Pareil, il y a eu un tournant dans les années 70, donc souvent on a pour coutume de parler des 40 dernières années comme un petit peu révélatrice de ce qu'on vit aujourd'hui de manière exacerbée. Donc depuis 40 ans, on a eu effectivement un développement des alternatives, mais qui ne s'est pas du tout accompagné d'une réduction du nombre de personnes détenues, qui a accompagné cette augmentation du nombre de personnes détenues. Et ça, c'est un constat qui a été posé par différents chercheurs, notamment aux États-Unis dans la fin des années 70. C'est un mécanisme qu'on appelle d'extension du filet pénal. C'est-à-dire qu'en fait, les alternatives ne font que qu'augmenter le nombre de personnes prises sous le coup de la justice pénale, que ce soit à l'intérieur d'une prison ou à l'extérieur sous le coup de la probation, enfin d'une mesure de probation.
Tu disais aussi qu'en 40 ans, le nombre de détenus a doublé, quoi.
Le nombre de détenus a plus que doublé. Le nombre de
détenus.
Voilà, exactement. Alors, le nombre de détenus a plus que doublé. Mais on pourrait se dire, bah, alors, c'est l'effet de la démographie. Pas du tout. On pourrait se dire, c'est l'effet de l'augmentation de la délinquance. Pas du tout. Parce que le nombre de le ratio, c'est-à-dire le nombre de personnes détenues pour 100 000 habitants, lui, il a doublé aussi, quoi. Donc effectivement, on est vraiment dans une augmentation très très nette. Et en fait, ça, on peut approcher les raisons. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, est-ce que c'est parce qu'il y a plus de délinquance qu'avant? Ben non, en fait. Il y a eu beaucoup, l'INSEE notamment réalise beaucoup d'enquêtes de victimologie, c'est-à-dire qu'elle pose la question aux gens, est-ce que vous avez été davantage exposé à des phénomènes de violence, à des infractions, etc., en tant que victime, voilà, que avant, enfin bon, c'est des enquêtes de victimologie, et toutes montrent que non, il n'y a pas une explosion et de la délinquance, quoi. Et ça, la Cour des comptes, alors on peut difficilement taxer la Cour des comptes d'imprégnation idéologique marxiste, mais la Cour des comptes le pose noir sur blanc dans un rapport en 2023 qui dit vraiment l'augmentation du nombre de détenus ne trouve pas comme origine l'augmentation de la délinquance. Donc c'est la Cour des comptes, quoi, qui le dit. L'administration pénitentiaire elle-même, elle le dit, c'est-à-dire qu'elle a un service qui produit des rapports et de la documentation, etc., et elle le dit aussi. Elle le dit noir sur blanc, je vais pas le citer, mais elle dit noir sur blanc que l'augmentation de la population détenue n'a pas pour origine l'augmentation de la délinquance. Ce que dit l'administration pénitentiaire, par contre, dans cette approche un peu critique de la question, elle dit il y a deux causes. Elle dit il y a les crises économiques qui, en fait, augmentent, qui exposent davantage les personnes précaires, les personnes marginalisées à de la délinquance.
Ouais, et de type vol.
Voilà, c'est ça, la délinquance, effectivement. Qui est davantage réprimé pour les populations précaires, pour les étrangers, pour les sans-abri, etc. Donc il y a la dimension économique structurelle en fait de l'État. Donc plus on produit de la misère et plus effectivement on retrouve des gens miséreux derrière les barreaux. Et puis il y a la couverture médiatique de la délinquance. C'est la manière dont, enfin, l'effet des médias sur effectivement la pratique punitive.
Toutes les déclarations de Darmanin, ouais, Taillot aujourd'hui,
bien sûr,
et
complètement
des autres, antérieurement, quoi.
Et puis leur relais médiatique, quoi. La manière dont effectivement les chaînes en continu alimentent quotidiennement l'image d'une France, je cite cette fois-ci, ensauvagée. Voilà, tout cet imaginaire qu'on a autour d'un recul de civilisation, en fait, qui va vers toujours plus de violence, etc. La manière dont on a commenté des faits divers qui sont toujours effectivement, enfin, souvent tragiques, donc c'est pas du tout pour minimiser ça, mais dont on en fait vraiment un reflet d'un ensauvagement, encore une fois, ce terme est d'une violence énorme, en fait, d'un ensauvagement de la société.
Comme tu le disais, on sait que historiquement, la violence régresse quand même dans nos sociétés occidentales, pour l'instant.
Oui, hein, pour l'instant, effectivement, si on regarde autant, tout à fait.
Ouais. Et donc, quelles seraient les alternatives? On a dit que le bracelet, c'était toujours une façon d'humilier les gens. On parle aussi de justice transactionnelle, où effectivement, là, les gens ne seraient plus enfermés. On essaie de se mettre d'accord entre soi pour se réparer, quoi.
Ouais, tout à fait. Bon, ça, c'est encore une fois une approche très philosophique de la peine. Comment est-ce qu'on répare une situation... Enfin, il y a un criminologue abolitionniste qui parle de situation problème, en fait, qui, son invitation était justement à revoir la manière dont on punit, la manière dont on transforme un conflit, en fait, en se passant de la pénalité, en se passant de la machine judiciaire. Et donc lui, il parle de situation problème en disant, en fait, si on ramène une infraction à son état de nature, c'est-à-dire qu'il y a eu une transgression à la loi, certes, mais il y a eu, en fait, une personne lésée. Et est-ce qu'on peut pas imaginer un règlement des conflits qui se passerait de toute une machine extrêmement protocolaire, extrêmement déshumanisante, et pour les victimes avant tout, mais aussi pour les auteurs, et envisager effectivement une réparation plus humaine, plus concrète, où voilà, on répare un petit peu les conditions qui font que cette situation problème s'est produite. Bon, on va pas rentrer là-dedans parce que il y aurait énormément de choses à en dire et ça pourrait nourrir une émission à part entière, mais Mais voilà, effectivement, là, on l'a suffisamment dit depuis tout à l'heure, la voie répressive bête et méchante dans des conditions de détention comme on les a décrites, du coup, ne produit absolument aucun effet. C'est extrêmement coûteux pour les finances publiques, on l'a dit. C'est-à-dire que la dette immobilière, ne serait-ce que la dette immobilière en matière carcérale, elle avoisine les 5 milliards d'euros, quoi.
Enfin, c'est binaire. C'est-à-dire la construction et l'entretien
d'établissements. Et pour autant, on poursuit dans cette voie. Ça veut dire que depuis 40 ans, tous les gouvernements successifs, tous les ministres de la justice successifs sont entêtés dans cette idée selon laquelle on pourra résoudre la question des prisons par une augmentation du nombre de places. Donc on a créé, depuis les années 90, on a créé 25 000 places de prison, mais on a depuis les années 90 35 000 détenus de plus. Et ça, la Cour des comptes le dit aussi, en fait. Dans son rapport de 2023, dont je parlais tout à l'heure, elle le dit aussi. L'augmentation du parc pénitentiaire, du parc immobilier, n'a jamais permis le moindre effet sur le nombre des incarcérations, quoi. Donc il y a un entêtement à toujours... créer
toujours
plus de places, qui est très très vendeur politiquement. On va créer des places, on va enfermer toujours plus de gens, on va être toujours plus sévère, etc. Mais ça n'a absolument aucun effet. L'autre piste qui en ce moment commence à trouver un petit peu un écho politique, dans laquelle l'OIP s'inscrit, mais avec une certaine mesure aussi, c'est un mécanisme dit de régulation carcérale qui viserait à dire au-dessus de 100% de taux d'occupation, on libère.
Comme on l'a fait pendant le Covid.
Ça a marché.
Et ça a marché.
Et il n'y a pas eu de catastrophe.
Non, complètement. Donc voilà, il y a des parlementaires qui cherchent à s'investir en fait sur cette voie-là. Donc il y aura très certainement des propositions de loi qui seront faites en ce sens dans les prochains mois.
Quand ça déborde, on libère. Les courtes peines.
On n'accepte pas d'aller au-delà de 100% de taux d'occupation, voilà. Ce qui permet de recréer des conditions de privation de liberté. Plus acceptable et surtout plus constructive. C'est-à-dire que, voilà, quitte à ce que les gens soient privés de liberté, qu'on les aide à se réinsérer et à ne plus commettre d'infractions. Alors que là, on est dans un système carcéral où c'est l'inverse, on produit de la récidive.
Il n'y a pas moyen aussi de faire une pression culturelle sur les juges aussi, qui pourraient éventuellement moins incarcérer, parce que c'est quand même de leur décision.
C'est pas dans l'air du temps. Il y a tout un système, un environnement politique, dans lequel on est très engagé et duquel il est très difficile de sortir sans une vraie volonté politique. Par exemple, la régulation carcérale, c'est un changement de logique. Mais finalement, ce serait une solution assez simple. Mais c'est un peu un changement de paradigme par rapport au discours politique qu'on entend aujourd'hui. Qui va s'engager aujourd'hui dans le paysage politique dans lequel on est à dire je vais faire sortir des gens quand je vais en faire rentrer. Et puis peu importe l'aboutissement d'un parcours de peine. L'important, c'est que les gens se réinsèrent et donc sont dans de bonnes conditions de détention. C'est simple à dire, mais aujourd'hui dans le système dans lequel on est, personne ne s'engage là-dedans.
Ouais. Mmh. Et Dupont, excuse-moi,
je t'en prie. Non.
Dupont-Moretti le disait, le reconnaissait en fait. C'est-à-dire, il y a eu une audition de différents mouvements de la société civile qui effectivement se sont alliés ces dernières années pour impulser en fait la mise en place d'un mécanisme de régulation carcérale. Donc il y a eu une audition, Dupont-Moretti était présent et il le dit en fait. Il dit, moi, si demain je libère 10 000 détenus, je suis pas sûr qu'il y a pas une révolution dans ce pays. Il dit texto ça en fait. Donc effectivement, on voit bien, ça illustre bien la manière dont le politique en fait est complètement contraint par ou est empêché ou craint une opinion publique qui participe lui-même de façonner en fait.
Il veut bien être contraint, oui. Il accepte complaisamment d'être contraint.
Ben c'est ça. Et tu l'as dit, pendant le Covid, effectivement, il y a eu cette libération de... Alors, pas une libération de 13 000 personnes, mais il y a eu 13 000 détenus en moins sous différents effets, du coup, en quelques mois. Ça n'a pas du tout eu pour effet une augmentation de la délinquance.
Le pays n'a pas été à feu à son dernier nouvel.
Alors, on peut dire, oui, on était confinés, etc., mais c'est pas... Non. Voilà, c'est effectivement, on a libéré les personnes à qui il restait quelques jours, quelques mois, de manière assez... Bon, c'est pas parce qu'une personne sort deux mois avant la fin de peine que...
On a raccourci les détentions provisoires. Moi, j'ai un client qui était en détention provisoire. Ouais. Bon, mais ils sont sortis de détention provisoire. Ouais. Et puis ça s'est très bien passé. Ouais.
Voire on a transformé les détentions provisoires en contrôle judiciaire. Enfin voilà, on est juste sorti un petit peu de cette logique de réflexe carcéral qu'on a depuis toujours et vers lequel, effectivement, il faudrait qu'on...
Et ça s'est fait très simplement, là.
Ouais, juste
signer les ordres de sortie, s'assurer voilà, de, que les contrôles judiciaires soient, soient efficients. Voilà, vérifier que les conditions de sortie sont réunies. Et puis, ça se fait très bien. C'est très facile à faire.
Bon, ben, on va rester là. Puis, on va essayer de pousser ce bouchon-là le plus loin possible.
Espérer un nouveau Covid, sinon, mais...
Merci à vous, puis à bientôt.
Merci. À bientôt.
Pour nous mettre les uns contre les autres. Français contre étrangers, immigrés réguliers contre irréguliers. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à émigrer en quête de conditions de vie moins odieuses. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à la clandestinité. Avec les flics sur le dos et la peur des expulsions, l'État et les patrons poussent des milliers d'individus dans l'ombre en les rendant encore plus dociles à l'exploitation. On nous terrorise avec le chantage du travail salarié. Soit tu te vends à un patron, soit tu crèves de faim. On nous terrorise avec l'image de l'étranger, barbare et intégriste, pour nous faire accepter plus de restrictions, plus de contrôle, plus de précarité, ou bien pour nous faire aimer une identité nationale, fausse et vide. Si le capitalisme ne respecte pas de frontières, pourquoi les exploités devraient-ils le faire ? On nous terrorise avec les flics dans les quartiers, avec des rafles policières. La criminalité, c'est le prétexte. Le véritable objectif, c'est de faire baisser la tête à tous. On nous terrorise avec la prison, les expulsions, les camps de rétention. Plus les pauvres se haïssent, plus les riches s'engraissent. On nous terrorise en nous faisant croire que les terroristes sont ceux qui luttent contre l'État et les patrons. Et non pas ceux qui bombardent des populations entières, colonisent les territoires en rasant les maisons avec les bulldozers. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Yves Perra, Marseille, 4 janvier 2004. Thank you.